Yo, what's up tout le monde? Bienvenue à votre dose quotidienne de What's Up Podcast. Hein? Bien sûr, on recommence ça en ce lundi midi. Hein? Maintenant, c'est ça. Maintenant, je vais mettre ça à midi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que le monde, on dirait qu'il le voit plus à ce moment-là. Je sais pas trop pourquoi. Hein? Je voulais m'excuser en même temps pour vous dire... sorry pour le dernier épisode, la troisième partie en version vidéo de Mike Patterson. Chris, ça a quand même pris genre 2 jours avant que je le mette en ligne. Là. Désolé de tout ça. C'est parce que, ouais, cette semaine, j'ai été assez occupé. Mais t'es arrivé de quoi, Chris? Parce que cette semaine, dans le fond, la semaine passée plutôt, c'était ma fête. C'est ma fête, fait qu'effectivement, je me suis bourré la gueule hein, avec des amis, ceux qui vont voir, ceux qui m'ont aidé sur Facebook, ils vont voir ma photo de profil. Je suis sous-mort en train de boire dans un cocktail dans un ananas. un ananas. Si j'aime ça dire ce mot-là, ananas. En tout cas, peu importe. Aïe, aïe. J'ai bien pu finir humoriste cette semaine. Moi, des mots comme ananas puis vagicile. Ça me fait rire. Tu sais que tu peux pas devenir un adulte responsable. Je peux pas avoir d'enfant quand le mot vagicile, ça me fait rire. Aussi. Tu mérites ça. J'ai une fille plus tard. Elle me dit ouais, je pense que j'ai une infection à mon vagin. Hein, ben, mets du vagicile. En tout cas, peu importe là, avant que je déconne trop. Ouais, c'est ça, man. C'est une semaine. Crise de cette nouvelle de marte. Ça, le lendemain de ma fête, j'avais assez mal à la tête. Mal à la tête, mal aux yeux. J'avais mal à un œil. J'étais même pas capable d'ouvrir l'œil. En tout cas, je m'en vais faire une histoire courte là-dessus. Je m'en vais chez l'optométrice. Puis tabarnak, elle m'a appris, stigmate, ça se peut que je vienne aveugle. Beau cadeau, hein? Beau cadeau de fête! Ouais, merde, stick, c'est poche, merde. Là, ça, je fais une forme rare de feu sauvage qui me sort par les yeux, tabarnak. J'en ai tout le temps fait sur le bord buccal, tu sais, sur la bouche quand j'étais fatigué ou bien stressé. Ça a tout le temps été de même depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 4 ans. Aussi. Ben, je dis 4 ans juste pour situer, mais depuis que je suis jeune, j'en ai tout le temps fait. T'sais. Mais là, c'est la première fois, tabarnak, ça me sort par les yeux, calice. Pour moi, c'est pas si pire que ça. Au moins, c'est pas comme sa bouche. Tu sais, sa bouche, ça paraît puis c'est dégueulasse. Mais tu sais, dans les yeux, ça paraît pas. C'est juste sacrément. J'ai un œil fermé. On dirait que j'ai mangé une astie de volée. Là, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai appris ça. Fait qu'en tout cas, c'était. En tout cas, j'ai appris. J'ai écrit un 7 minutes là-dessus. Fait que ça, c'est le fun en tabarnak. J'invite tout le monde à venir l'écouter. Venez m'écouter en show quand je suis dans votre coin. Là. Mais ouais, ça, au moins, j'ai écrit un 7 minutes là-dessus. J'ai fait la première version à Varennes, une soirée d'un de mes amis. La soirée, c'est au bord les méchants quelque chose. Méchante virée, un enfant de même. Chris, que non, il est trop compliqué pour rien. Ça peut pas être juste un Chris de mots. En tout cas, peu importe. Fait que c'est ça, c'est les rires, c'est pas méchant. La soirée de Mathieu. La soirée à mon chum Mathieu Demers. J'ai fait ça là. Ça a été correct. Ça a été pas pire, mais Chris, quand je disais au monde, fait que c'est ça, j'ai appris que je pouvais devenir aveugle. Le monde, ils ont fait. Ah, pas vrai, puis ça a installé un esti de gros malaise. fait que là, mais en tout cas, vu que les blagues étaient quand même bonnes, j'ai réussi à aller rechercher un peu le bon, mais il y en a là-dedans, c'était vraiment trop malaisant. Fait que, tu sais, il trouvait juste que je faisais pitié. Là. Fait que là, ça a été ça. Là, j'ai fait une deuxième version après ça au café, Mousse Café. Il y a une soirée, là. D'un fois, un jeudi, je sais pas sur quand, ça et tout, c'est compliqué. La soirée s'appelle Drôle de Mike, vous irez liker ça, c'est à Montréal. Fait que là, j'ai fait une deuxième version là, que ça a mieux rentré que la première, mais encore une fois, le malaise était trop grand. Fait que, tu sais, j'ai eu de la misère à aller rechercher le monde. Mais là, je l'ai fait une troisième fois à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, je sais pas, parce qu'eux autres, peut-être qu'ils se collissaient de moi ou un enfant de main. Mais pour vrai, non. J'ai vraiment changé le texte. Puis, Chris a rentré collissement fort, pareil. Fait que ça, en tout cas, au moins, tu vois, ça se peut que je perde la vue, mais au moins, je vais avoir un 7 minutes là-dessus. Ça va être très intéressant. Je vais être un aveugle qui va rire en disant vagisile. Vagisile, c'est ça. Ouais, fait que, en tout cas, c'était la raison pourquoi que ça m'avait autant pratiqué. Je veux dire, dans le sens que ça m'avait tout retardé. Tu sais, man, la journée, quand j'ai appris ça, sacrement, j'ai rien écouté. J'ai fait aucun montage, j'ai pas écrit, man. Je faisais juste. J'essayais de pleurer. Je pouvais pas, parce que ça me faisait mal à l'œil. Je pouvais même pas pleurer. Aussi ironique que c'était. C'était ça, man. Mais en tout cas, merci de m'écouter, man. Merci beaucoup d'avoir suivi pareil, man. Il y en a que. J'ai remarqué qu'il y en a qui aiment vraiment ça l'écouter parce que Chris, ils m'ont écrit pour me le dire. Je faisais comme, hey, là, vendredi, Chris, on l'a toujours pas vu, tabarnak, on est rendu dimanche, on l'a pas encore. Et qu'est-ce qui se passe, ce calice? Ben, c'est ça. Lâchez de donner de la merde. Elle m'a donné avec, tabarnak. Lâchez de me donner de la merde. Non, c'est une blague. C'est avec des blagues, je suis toujours très content quand vous m'écrivez. Ça fait tout le temps beaucoup, ça fait beaucoup mon bonheur. Fait que c'est ça, là, cette semaine, on va vous parler de ça, c'est. Qui on reçoit cette semaine? Oui, c'est ça! C'est Simon Delisle. Simon Delisle, man, un esti de bon Jack, pour vrai, là. Vraiment correct, le bonhomme. J'ai tellement appris, pour vrai, en parlant avec lui. Tu sais, c'est exactement ça. On a parlé d'écrire sur des galas, d'animation, beaucoup de trucs d'animation. La troisième partie, on parle aussi de son show, de son 60 minutes, comment qu'il l'a écrit, comment justement désamorcer les malaises puis tout ça. C'est pour paraître, quand t'écris, pour paraître d'un gars qui fait pitié parce qu'il parlait justement de sa maladie, lui qui a une grosse maladie depuis qu'il est jeune. Il a tout le temps été de même, tu sais, tout le temps été malade. Fait que, tu sais, il parle de ça, tu sais, comment écrire sur des sujets de même, écrire pour d'autres. Tu sais, ce gars-là, man, juste vous mettre en contexte, c'est un des meilleurs punchers qu'il y a quasiment au Québec, tu sais. Son nom, il ressort tout le temps. C'est tout le temps lui qu'on appelle. En tout cas, c'est un des noms en tout cas, qui ressort tout le temps. Là. Moi, tu m'as, je peux pas vraiment parler à travers mon chapeau. Là, je parle comme si je connaissais tout, puis que tout le monde. J'avais les références de tout le monde, mais non. Je suis quand même juste Jerry Allen. Hey, Chris, je voulais parler de ça, tabarnak. Chris, c'est le fun, ça. On a apparu dans. Puis là, je dis « on » parce que, Chris, c'est un projet que j'ai avec vous autres, vous m'écoutez. Dans le Journal de Québec, Chris, que c'est... Mais ça paraît tellement que le gars, il a même pas pris le temps d'aller sur Facebook, checker. Parce qu'en tout cas, gros merci à ce dude-là que moi, j'ai pas plus pris le temps de retenir son nom, fait que je suis autant une marde, là, tu sais. Mais tu sais, il a même pas pris le temps d'aller sur Facebook, checker, voir si c'était juste audio, vidéo, hein. Puis c'est sûr qu'il a pas écouté le podcast parce que je sac tellement souvent dedans, là. C'est sûr et certain que au nombre de fois que je sac, là, c'est sûr qu'il a pas pu recommander ça au grand public. Ou sinon, il aurait fallu qu'il mette genre un astérix, faire comme « attention aux oreilles sensibles ». C'est sûr et certain qu'il aurait fallu. Hein? Je suis tout le temps en train de sacrer, ici. Mais en tout cas, c'est pas grave. Fait qu'en tout cas, là-dessus, on va commencer ça, le podcast. Mais merci encore beaucoup, man. N'oubliez pas, allez écrire. Écrivez-moi si vous voulez me parler, si vous avez des conseils en humour ou peu importe. Gênez-vous pas, ça va tout le temps me faire plaisir. Likez, commentez. Allez liker la page. Surtout, même si... man, c'est vraiment important, man, parce que moi, ça m'aide à situer environ qui écoute, qui trippe vraiment sur le podcast, sur mon projet, tu sais. Fait que, tu vois, merci de me suivre. Puis, on va commencer ça avec Simon Delisle, Dret Live. Merci beaucoup, tout le monde. Puis, on passe ça. Fait que, what's up tout le monde? Je suis avec un humoriste Ben Simon oui. Delisle.
Bien, salut.
Comment qu'il va, mon gars?
Ça va, Jérémy?
Yes, sir. T'es en forme?
En pleine forme.
Yes. Moi, c'est un peu tôt pour moi en ce moment, là. 11 heures, mais...
11 heures, pauvre enfant.
j'ai mangé mes toasts avec du beurre d'arachide.
T'es starté, là.
je pense que je vais être correct, man. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité sur mon podcast. Toi, t'es un des animateurs du bordel,
ouais.
Un des animateurs réguliers.
Ben oui, quand même, oui.
Ça fait combien de temps que t'animes là, depuis le début?
Pas mal depuis le début. Ben, tu sais, au début, mettons les premiers, je sais pas. Ça a commencé en avril, ça va faire 2 ans, en fait, là.
Okay.
Je pense, me semble. Si, ouais. Si je me trompe pas, c'est avril, donc 2015, là. Ça va faire 2 ans. Puis les premiers mois, ben, tu sais, il y avait pas encore autant de choses qu'il y en a là. Il n'y avait pas comme 5 jours par semaine. C'était comme 3, je pense, au début.
Ouais. Là, ils sont rendus à 11 par semaine.
Ouais, 11 shows par semaine, 5 jours. Tu sais, vendredi, 2 shows, samedi, 3 shows. Le jeudi, 2 shows, moi aussi, maintenant. Ouais. Fait que, puis aussi, au début, il y avait un peu moins. Puis les animateurs, c'était plus varié. Ils essayaient des trucs. Puis à un moment donné, ils ont comme stipulé, c'est le fun d'avoir les 4, 5, 6 mêmes animateurs en rotation. Okay. Fait que je dirais depuis au moins un peu plus qu'un an. Un an et demi, mettons. Je fais partie du lot d'animateurs réguliers.
Des réguliers, ouais. Puis, mais toi, ça fait longtemps que t'animes aussi, là.
Ben, j'anime pas mal. Tu sais, moi, j'ai sorti de l'école en 2010. Ouais. J'ai commencé à animer au Bois A. Pendant 3 ans, de 2012 à 2015, justement. Puis
ça a-tu commencé avec toi, le brouhaha?
Non, c'était avait... Louis T.
Louis T, okay. Ouais. C'est avec lui qui avait starté, ça?
Ouais, c'est Myline, puis qui est chez Fan 9, qu'on salue d'ailleurs, Myline, que tout le monde connaît, qu'on aime beaucoup dans le milieu, qui est gérante, productrice, bookeuse, en fait, elle a beaucoup de chapeaux. Mm-hmm. Et Louis avait envie d'essayer d'animer. En sachant qu'il n'allait pas faire ça nécessairement longtemps parce que c'est pas nécessairement ce qu'il aime faire dans la vie animée, puis c'est pas parce que c'est moins son créneau un peu, mais il voulait essayer. Fait qu'ils se sont dit, hey, startons une soirée, c'est un bar que Mylène a le tourisme bar là, qui est intéressé, tout ça. Puis ça a bien été avec lui, ça a bien décollé.
Puis c'est un bar connu aussi. Là.
Quand même.
C'est souvent à plein, même s'il n'y a pas de soirée.
Oui, ben oui, puis eux autres, la soirée a créé un. Parce que je connais assez bien ayant animé là 3 ans, je connais assez bien le monde qui travaille là.
Le staff.
Le staff sont très contents de cette soirée-là. C'est sold out depuis.
C'est tout le temps sold out.
Pas mal.
Là-bas.
Pas mal. Puis, tu sais, c'est une ambiance. C'est un peu pour ceux qui sont jamais allés au Brouhaha. Même s'il y a plein de monde, des fois, c'est assez relax, mais c'est très honnête comme réaction. Tu vois, des textes là. Puis t'as pas l'impression de. Tu sais, contrairement au bordel où le monde, ça explose. L'ambiance est un délire. C'est le fun aussi. Mais c'est le fun d'avoir des soirées plus.
Ouais.
Un peu plus difficiles. Il faut que tu travailles un peu plus fort. Ouais. J'ai animé là 3 ans.
La soirée au bordel, toi, t'as-tu été joué durant l'open mic?
Oui, j'ai déjà joué au open mic. Tu fais un bout, par exemple.
Ouais.
C'est les mercredis, mais maintenant il y a les mardis aussi.
Ouais, c'est ça. Il y a les mardis. Ouais. Moi, ça, je suis chroniqueur, c'est les mardis maintenant. Là. Puis,
joué une fois, mais ça fait longtemps.
Ouais, ça fait bien longtemps.
Ouais, ouais.
Parce que je sais qu'il y a vraiment une différence entre
l'open
mic et la vraie soirée. Mais moi, j'ai pas fait la vraie soirée.
Revenez.
Ouais. Mais c'est ça que j'entendais souvent dire des
autres humoristes. Ben même, tu sais, je suis déjà resté pour checker un peu le show. Ouais. Sans seulement jouer dessus. Tu sais, il y a moins de monde. C'est moins. Il y a une moins grosse note. Pas de notoriété, je veux pas vous dire que l'open mic est moins le fun, mais c'est juste que c'est open mic. C'est très open mic au sens propre du terme. Là,
ben pour vrai, moi je trouve que c'est open mic, mais en même temps, c'est pas des vrais open mic. Là, parce que tu sais, t'as pas Laurent Paquin sur un open mic
d'habitude, non. Mais ça arrive.
Non, mais tu sais, au Loup-Garou, t'es pas supposé, genre.
Pas supposé.
T'envoies vraiment moins. C'est vraiment fait pour les débutants. Ouais. Pis,
mais tu peux tomber. Tu sais, le risque est plus élevé. Ça coûte 5$ pour aller voir ça. Tu sais que t'en auras pour 5$. Puis peut-être qu'au milieu de ça, il va popper un François Bellefeuille qui était là, puis ça y tentait. T'sais. C'est la beauté du open mic aussi.
Ouais. Ben ouais, c'est vrai, man. Puis je trouve que ils sont quand même honnêtes, tu sais. Comme hier, le public, il était un peu mollo, hein, tu sais. Mais tu sais, c'est nice parce que ça te force à travailler plus tes shit dans ce temps-là.
Absolument. Si on avait juste des publics, tu sais, le bordel, le pas open mic, le bordel le régulier, en guillemets.
Ouais.
Le monde, de façon générale, le monde sont tellement contents d'être là.
Ben oui.
Puis le monde, en général, du monde comme moi ou des gens, mettons, de la relève un peu, tu sais, mettons, plus habitué, plus vétéran de la relève, on arrive quand même avec du stock assez rodé d'habitude. T'sais. Sur 15 minutes de show, ouais. On va peut-être faire un 5 minutes de choses plus récentes, mais de façon générale...
Il n'y a pas grand monde qui teste des affaires
les
là-bas.
À part les propriétaires. Hein, les normes, Bellefeuille et Mike Ward viennent là pour ça.
Ouais.
Mais puis c'est bien correct, c'est à vous autres. T'sais. Mais moi, si j'ai un petit 5 minutes que je vais tester, hein, mais je vais le squeezer dans un sandwich de choses que je sais qui marchent.
Ouais.
Je leur donne du stock à la hauteur de l'attente qu'ils ont. T'sais. Fait qu'ils ont payé 15$, ça fait longtemps qu'ils ont le billet, ils sont contents, ils arrivent là, le stock est bon, puis ils vont racheter des billets en sortant. C'est aussi ça le.
Puis, man, c'est des estis de grosses soirées. Là.
Ouais.
Man, c'est des mini-galas qu'il y a.
Ouais.
Hey, j'ai checké un de tes posts là, que tu avais fait. C'était comme genre François Mascotte, Louis José Houd,
Simon Gouache, Wagner, Adib.
C'est ça. Puis Simon Delisle qui fucking anime d'abord. Hein. La première fois que ça t'est arrivé, ça a dû te stresser un peu.
Ben oui, puis en même temps, tu sais, faut. Oui, c'est sûr qu'on veut faire une belle job. Surtout quand, tu sais, les premières fois que les propriétaires sont.
Ouais, aller.
Ben tu sais, il y en a que je connaissais déjà. Je connaissais bien Mike puis Laurent un petit peu, mais je connais pas tant que ça Louis José, un peu plus, là, parce que ça donne qu'il est là beaucoup de ce temps-ci, vu qu'il rate son nouveau show. Mais je le connais pas beaucoup. Fait que les premières fois que j'ai animé, qu'il était sur le show, puis je sais qu'il me voyait animé, j'ai déjà une pression de plus, mais en même temps. Je connais le crowd, je connais le bordel.
Ouais. Je connais la game aussi.
Je connais la game. Puis l'animation du bordel, c'est très crowd work. Là, on fait beaucoup de jasage avec le monde.
Ouais.
On pose des questions. On est là pour passer à la POC. On n'est pas là pour faire un numéro de gala en tant que tel. Fait que le stress n'est pas pareil. C'est juste faire en sorte que la POC se passe égale pour tout le monde. Puis que tout le monde parte avec un public disposé à écouter leur numéro. T'sais. Fait qu'il faut faire un peu de
The crowd work.
The crowd work, puis il faut aussi les doser un petit peu. Non, dis pas ça, hey, fermez vos yeux.
C'est ça, faut que t'es pop, tu mets l'énergie haut, là, ensuite tu la redescends un petit peu.
Juste pour les. Tu sais, soyez contents.
Soyez prêts,
n'oubliez pas que c'est un show.
Ouais.
Tu sais, moi, je fais souvent le gag de. C'est pas un spectacle dont vous êtes le héros. On n'a pas besoin que vous répondiez à nos questions littéralement. Puis à 15$, ça inclut que tu fermes ta gueule. T'as pas besoin de parler. Je vois pas pourquoi tu parlerais. On va tous s'occuper de ça. On s'occupe des jokes. T'as pas besoin de les finir ou de les commenter. Tu ris puis t'enjoy. C'est comme dire regarde, t'as payé pour avoir un produit. Ça sert à rien d'essayer de nous scraper ça.
Ouais,
on est des pros. Là,
exactement, man. Puis là, ça, t'as parlé de crowd work. Moi, c'est ça, je suis là-dedans en ce moment. Je suis en train de travailler ça au bout, là, man. Toi, comment tu t'y prends pour faire ton crowd? Tu sais, c'est sûr, il y a les questions générales. Tu sais, qui est en couple, qui est célibataire. Mais tu te laisses-tu guider par ton instinct quand tu y vas, là?
Un peu, puis, tu sais, moi, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus puristes au niveau... Tu sais, il y en a qui font du crowd work, ils vont juste poser des questions puis ils répondent. Puis ils vont pas aller piger dans du matériel. Moi, j'haïs pas avoir...
Les deux?
J'haïs pas avoir les deux.
Okay.
Moi, j'ai mes questions, j'ai des types de questions qui fit par rapport à certains jokes que j'ai dans mon matériel. Mm. Fait que si, des fois, les gens te donnent du jus puis ça va super
bien. C'est ça. Si tu donnes à rien, ben au moins...
T'as de quoi rattraper.
C'est ça.
T'sais, si, mettons,
t'as un petit backup.
Exact. T'as des jokes de où vous venez. Là, j'ai des jokes de région, mettons, parce que je viens du Saguenay. J'ai des jokes de Saguenay dans ma poche. Fait que là, je pose des questions puis si on m'en donne pas tant que ça, j'ai ma porte de sortie qui est « Ah ben moi, je viens de loin, moi, j'ai du Saguenay. Par une joke de Saguenay, tant, on change de sujet, on a closé le deal. » Fait que c'est juste des portes de sortie que j'ai comme ça. Ça, c'est mes petites cartes que j'ai dans ma manche. Mais sinon, c'est sûr que il faut pas se mettre trop de pression en fait crowd work parce que c'est.
Ben c'est ça l'affaire, moi, c'est ça mon problème.
Mais ça va finir par. Tu vas finir par comprendre que tout anime. Le but, c'est que de faire en sorte que l'énergie se concentre vers les autres. Et non pas. Il ne faut pas que le monde se lève ou qu'il y ait. Faut pas que le monde se rappelle l'animateur tant que ça.
Ouais.
C'est ça le mandat.
Ben, j'ai remarqué ça va vraiment mieux depuis que j'ai juste appris à me faire confiance.
Ouais, ben oui.
Tu sais, que je dégage la confiance au bout. Des fois, c'est même pas vraiment drôle qu'est-ce que je dis, mais je le dis tellement avec confiance qu'il y a un petit de quoi qui se crée, puis avec une pause. Là, le monde fait comme
c'est ça, exactement. Mais c'est un peu comme tu sais, c'est con, là, mais comparaison peut-être un peu boiteuse, mais ça fait du sens quand même. Quand tu vas dans un resto, puis le gars, il t'explique le menu, tu sais, son ardoise, là, puis il t'explique le menu, mais il te l'explique avec un genre de c'est la meilleure shit que tu vas manger de ta vie. T'es comme, ah, oh, ben ça, je veux ça. Puis tu sais, il t'a juste dit des mots, là, mais de la façon, tu sais, s'il te l'a dit, ben ça, on fait ça un peu de même, puis tu sais, s'il est hésitant, t'as pas, mais s'il dit ça, là, c'est la meilleure. Puis finalement, c'est une sauce tomate, c'est super de base, puis il te l'a tellement expliqué.
arrive avec une assiette de betteraves.
Ben ouais, c'est des betteraves coupées minces, mais t'es manches. C'est vrai, il a raison, c'est exactement ce qu'il dit. Faut pas que tu suggères des choses aux gens, faut que tu leur dises. C'est ça qui va arriver, ça va être ça, ça va être le fun. Toi, ouais, t'as-tu du fun? Ouais, t'as un gag, on passe la poc. OK. Tu sais, un genre de... Moi, je le sais, ce qui vous attend, ça va être nice. Faut que les gens soient dans cette disposition-là avant même de rire. Oui, l'animateur, faut qu'il fasse rire, mais la job de rire, c'est les humoristes qui s'en viennent pas, tu sais, de faire en sorte
tout
que les gens soient...
Toi, c'est d'installer la table.
Ouais, puis que les gens soient les bras ouverts, puis qu'ils aient le goût d'écouter. Fait que les bras croisés, puis tout ça, quand t'animes, idéalement, quand t'as fini ton animation, le monde n'a plus les bras croisés. Ils sont même physiquement disposés à recevoir l'humoriste. OK.
Ah, c'est cool, ça, man. Puis là, c'est ça aussi, en même temps, vu qu'on parle d'animation, t'as donné un cours à l'ENH, toi, le soir?
Ben, j'ai créé un cours de 7 fois 3 heures sur l'animation humoristique. Mais à l'École de l'humour, les cours du soir, là, que tout le monde peut s'inscrire, qui existe encore d'ailleurs, là, en ce moment, j'ai pas le temps de le donner, fait que c'était Gabriel Caron, l'humoriste Gabriel Caron, qui le donne en ce moment.
Tu l'as donné combien de temps,
Je l'ai donné pendant 3 sessions, donc 1 an et demi. Mais en fait, il y a une session que ça avait tellement bien fonctionné qu'on a fait 2 sessions en une session parce que la demande était très élevée.
Était trop fort.
Ouais. Puis ça veut pas dire que je leur ferais pas un moment donné, mais dans les derniers mois, j'ai eu un bébé, j'ai eu la job et tout ça, j'étais un peu dans le jus. Ouais, ouais. Mais je voulais que le cours existe, puis le cours, il y a des demandes, puis le monde, il y a quand même du monde qui vient.
C'est toi qui l'as proposé à la direction?
Ouais. Il faisait un pitch à un moment donné, il en avait reçu, pour ceux qui étaient les anciens étudiants, avaient reçu un mail de si vous avez des idées de cours que vous aimeriez donner ou d'atelier. Okay. Puis moi, je trouvais que, pour tout le monde, mais tu sais, quand on sort de l'école de l'humour, l'animation, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. T'sais. On nous apprend bien des affaires, puis j'ai bien aimé mon passage à l'école. Mais quand je suis sorti de l'école, j'ai vu beaucoup de gens, dont moi, mes premières fois que j'ai animé, se péter la gueule parce que faire un numéro d'humour, c'est pas parce que t'es capable d'écrire un numéro d'humour que t'es capable d'animer. C'est pas le même métier, c'est pas la même job.
Non, vraiment pas.
J'ai décidé de décortiquer ça. C'est vu au sens très large parce que la plupart des personnes qui viennent prendre ce cours-là, c'est pas des humoristes. C'est des gens souvent qu'ils veulent animer un mariage, ils veulent animer leur partie de bureau. Fait qu'ils veulent avoir des conseils pour l'animation de façon assez globale. Fait que j'apprenais comment écrire un numéro d'ouverture. J'apprenais les questions à poser à un producteur qui veut t'engager pour animer des affaires. Fait que c'était pas nécessairement axé sur les soirées d'humour en tant que tel. J'en parlais un peu, c'est sûr. Mais vu que je parlais pas à des humoristes, ça ne servait à rien de leur dire comment ça fonctionne d'animer au bordel. Ils n'iront pas animer. Par contre, je leur en parlais, puis souvent, je les invitais à venir voir une des soirées d'humour à Montréal que j'animais ou quoi que ce soit pour vraiment voir comment c'est une soirée d'humour. T'sais.
Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un pour vrai d'aller voir des soirées. Puis juste faire un peu de PR. Genre, au pire, si t'es quelqu'un comme moi qui a vraiment de la misère à parler au monde, fais juste aller. Hey, j'ai bien aimé ce que t'as fait.
Absolument.
Ciao.
Absolument.
Puis tu t'en vas, tu sais. Ou cinq que ça.
Absolument. Puis tu sais, quand tu fais un peu d'humour dans la vie, comme. Ben, tout en fait de plus en plus, tu sais. On peut pas juste dire un peu, mais tu peux rentrer d'une soirée où t'es pas sur le show. T'asseoir avec le monde en arrière, écouter le show, jaser un peu, juste filer la vibe un peu, puis juste. T'sais, prendre des notes, sans littéralement prendre des notes dans ta tête de ce qui se passe. Moi, au début, j'ai fait ça. Puis là, je le fais moins parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'affaires. J'ai plus vraiment le temps d'aller à une soirée juste pour apprécier la soirée. Mais je l'ai fait beaucoup, aller juste voir des shows. Où j'étais pas booké, là, pas pour demander du booking non plus, juste pour aller voir le monde, prendre des notes. Suggérer des gars à des gens, regarder des animateurs comment ils font, les mauvais pas que les gens font, les bons coups que les gens font, puis essayer de se faire une idée avec ça, se trouver une couleur.
T'sais. Tu peux tout le temps en apprendre, Même moi, tu sais, là, je suis plus débutant, là, mais je continue encore à aller faire ça, puis même une de mes résolutions cette année, c'était de le faire plus souvent. De rester moins chez nous à écouter fucking Netflix.
C'est tentant. C'était la gueule. Parce que tu sais, faut quand même faire. Un coup rendu là-bas, c'est le fun. Souvent, moi, quand j'ai un show, c'est ça que je trouve le plus dur, c'est de me rendre. C'est pas faire le show, j'adore. Tu sais, un coup rendu sur scène, un coup rendu là-bas, je suis content, mais me rendre au show, là. quand j'allais juste voir des shows, c'était encore pire parce que j'allais pas jouer, j'allais juste. Mais au début, j'étais. T'sais, Je voulais que le monde me reconnaisse. Ça commence par ça.
T'sais. Tu veux tellement, merde, ça va être malade.
Ça va être malade. Non, mais puis des fois, j'ai bien fait d'y aller, puis j'ai veillé jusqu'à 3 h du matin dans le défunt Saint-Cyboire. il y a des soirées mythiques de bar. Il y avait comme une ruelle. Tu connais le Saint-Cyboire, toi?
Non, j'ai jamais fait le Saint-Cyboire.
Ben, c'était mythique dans ce temps-là. Oh, c'était ouais. Pré-bordel, mais c'était l'endroit
où ça a existé pendant 10 ans. Ça,
quasiment 10 ans. C'est Étienne Dano qui a starté ça. Il y a
ouais, de... Avec Junior.
Avec Junior. Ben, aussi, il y a eu Wagner qui animait là, Corinne Côté, Derek Frenette. Moi, j'ai animé en remplacement une couple de fois quand Derek était sur, animateur et qu'il ne pouvait pas. Mais ça a été ma première ouais. école, mon premier show. J'ai fait ça en duo. Là.
Ça a été donné à Bizaillon, ouais. Alexandre Bizaillon.
Puis ça passe au feu. Puis ça n'a jamais réouvert. Puis
c'est plate.
C'est en haut que ça a brûlé, en fait. Puis oh, en bas, ouais. ça a fait un. Ouais, c'est le resto en haut qui a eu un feu. Puis, ça avait, puis le bordel, c'était magané. Là. Pas le bordel. Le bar était magané. Fait que
oh, ouais.
C'était sûr qu'il allait arriver quelque chose à maner. C'était pas bien entretenu. Puis on s'était dit, ah ben crime, c'est quasiment une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir reniper ça puis réouvrir ça. Puis tu sais, ça serait revenu. Il y avait une clientèle habituée, le Lucam est collé à côté. Oh, ouais. Il y avait tout le temps du monde.
Ben là, en ce moment, dans ce coin-là, il y a comme 3-4 shows. Puis ça roule tout. Oh, ben tu sais, l'Abreuvoir le mercredi, mais le Loup-Garou, c'est un open mic. Ça va quand même bien. Lucam qui est à côté. Merci la vie. Je sais pas si t'es
allé il y a à peu près 3 semaines. Ouais. Ça fait.
Puis, tu sais, c'est ça. C'est tout le mardi.
Ouais.
C'est quand même assez souvent plein.
Oui, puis c'est des 50, 60. D'avoir voir peut-être un peu plus, ça va pas plus que 100 places. Ça se remplit vite avec le nombre de personnes qui y a des alentours. Puis même si ceux qui veulent venir voir le show, qui font. Ils prennent le métro est collé. Ouais. Quand tu as un métro à côté, ça aide.
Là, je vais te parler. Tu fais la première partie à Jean-Michel Anctil.
Ouais.
Tabarnak, c'est cool.
Ouais, c'est cool.
La photo que tu as postée, c'était à Albert Rousseau. Ouais. C'est à Québec?
À Québec.
OK.
La
grosse salle.
La grosse salle. Ben, t'as le grand théâtre aussi. Mais Albert Rousseau, selon. Ben, je ne les ai pas tout faites. Je ne veux pas non plus parler à travers mon chapeau, mais c'est dans les 3 meilleures salles au Québec.
Ah oh, ouais.
Tout point de vue. Là. C'est pas nécessairement. C'est à peu près 1400 places, qui est quand même considérable. Mais les loges sont malades. La disposition des photos, le son, ouais. L'énergie se passe.
Ouais,
des,
l'acoustique.
Tout. Tu sais, même, mettons, t'as l'Étoile 10-30 qui est une super belle salle, très moderne et tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qui rebondit moins. Je sais pas. Tu sais, c'est le fun. C'est... Alors qu'Albert Rousseau, t'as l'impression d'être d'un petit cabaret, mais c'est quand même gros. Il y a un feeling vraiment cool. Puis là, c'était ses premières médiatiques de Québec.
La première médiatique, OK.
À Québec. Puis il va y avoir celle-là à Montréal ou Saint-Denis dans 2 semaines. Le 23, okay. 24, 25 mars, que je vais être là aussi.
Ah ouais. That's it. Félicitations.
T'es fin. Ben, il y a moi, puis il y a Sébastien Ouellet aussi, qui est un auteur humoriste très talentueux, qui écrit sur le show de Jean-Michel aussi, qui fait aussi des premières parties.
Ouais.
Fait qu'on s'alterne.
T'écris-tu le show, toi?
Non.
OK.
Moi, le show était déjà pas mal écrit quand il me l'a demandé. Lui, il est venu, Jean-Michel est venu roder beaucoup ses numéros au bordel au printemps puis cet été. Ses numéros de show, beaucoup de gens font ça de plus en plus. Les humoristes viennent roder leurs numéros par morceaux au bordel. Puis il m'a vu là souvent en animant ou comme humoriste. Il a eu un coup de cœur, il m'a demandé, veux-tu faire la première partie comme ça. Je le connaissais un petit peu, mais pas plus que ça. On avait déjà joué au poker, fait des choix ensemble un peu.
Ouais.
Mais vraiment, il m'a comme découvert un peu plus là. Il me l'a demandé. J'ai dit oui. Puis,
C'est nice pareil que des humoristes dans même établis redonnent à la relève.
Ouais. Ben lui, il trouve ça. Il a toujours fait ça. Pas mal de tous ses shows, il y avait une première partie. Telle quelle, ça a été PA Méthode. Puis ça l'a un peu lancé. Puis lui, il trouve que c'est. Regarde, il a plus rien à prouver, là, dans le sens que ses billets se vendent très bien, puis il n'y a pas de misère à remplir ses salles, puis tout va bien. Fait qu'il essaie de passer un peu la poc à du monde qui considère.
Faire profiter son fame.
Exact. Puis c'est tout à son honneur, selon moi. Puis c'est tout à l'honneur de tous ceux qui le font, d'ailleurs. Puis, tu sais, on est payé pour ça. On a un cachet qui est tout à fait raisonnable. Puis ça vaut. C'est le fun pour l'expérience. En même temps, parce qu'il y a certaines, je ne donnerai pas de nom, parce que je ne peux pas non plus faire de scandale, mais il y a certaines compagnies ou artistes qui. Tu te proposes de faire une première partie, mais sans être rémunéré, en te disant « Ouais, mais tu vas te faire voir.
Ouais, » visibilité.
« Ouais, mais je travaille quand même. » C'est un peu bizarre. Tu as le goût de dire oui pour le
fame.
Ouais. Mais en même temps, c'est comme « Ouais, mais moi, tu sais, il faut être conséquent aussi dans ses choix. »
Ouais, puis tu peux pas payer ton appart avec de la visibilité non plus.
Puis tu sais, les 3 jours, j'étais à Québec, moi, jeudi, vendredi, samedi, c'est 3 soirs que je pouvais pas faire autre chose. Je pouvais travailler, mettons, de l'écriture de là-bas, mais ces 3 soirs-là, je pouvais pas aller au bordel, je pouvais pas aller faire un corpo, je pouvais pas aller...
Non, ouais, c'est ça.
Fait que Puis je voulais pas. Tu sais, ça a été vraiment trippant. J'aurais pas voulu être ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Mais fait que lui, dès le départ, c'est comme, regarde, moi, je t'offre tant, j'ai des dates, veux-tu? Oui, ça a été très simple, très facile. Puis à partir du moment que Sébastien Ouellet était embarqué aussi, on s'est dit, regarde, on se split ça. À chaque 2-3 mois, il nous envoie la liste de shows. On regarde les shows qui fonctionnent le mieux. Hey, moi, j'irais là, toi, tu irais là. On se split ça. Puis on est bien content. Puis
assez à FNAF.
À peu près. Mais des fois, tu sais, il y a un mois, des fois, ça peut être lui un peu plus parce que ça donne qu'il va dans un. Oui, il va dans un coin que lui vient de la Gaspésie, mettons. Quand ils vont dans le coin de la Gaspésie.
Tu y laisses.
Ben, puis quand moi, ils vont Saguenay, ben, c'est plus moi. Ouais, on se parle des choses comme ça. Puis c'était déjà déterminé au départ que les deux premières médiatiques de Québec et Montréal, c'était moi. À ce moment-là. Puis après ça, la tournée va continuer encore 2-3 ans. Puis à chaque 2-3-4 mois, on refait le refresh des dates. Puis. On poursuit l'aventure et on a beaucoup de plaisir. Fait que...
Les premières médiatiques, c'est juste pour faire parler, pour vendre du ticket?
Ouais, c'est juste pour comme...
Parce que ça semble être un show pas mal normal.
Oui, puis tu sais, le show était rodé. Là. Ça fait longtemps que le show qui a été présenté jeudi passé en première médiatique à Québec, c'est le même qu'il y a un mois. Là. Il est peaufiné, oui, parce que il est encore considéré comme en rodage jusqu'au premier médiatique. Mais en fait, il n'était plus en rodage.
C'est ça,
c'était le même show, bien ancré, bien...
À part le début, là, c'est pas mal.
Ouais, exact.
Puis même au début, ils savent déjà pas mal ceux qui s'en vont.
Oui. Puis tu sais, quand Jean-Michel a commencé les rodages du show en entier, il avait déjà rodé pas mal tous les numbers à part au bordel. Fait que ça a pris les quelques premières semaines de rodage. Il est encore en chantier, puis il apprenait encore les affaires un peu. Mais depuis 3-4 mois, c'est pas mal figé. Là. C'est juste que les problèmes médiatiques, c'est comme une espèce de lancement. L'album est fait, mais toutes les pistes sont faites, le CD est imprimé, tout, mais on veut un lancement.
Ouais.
C'est juste pour dire que la machine est lancée, puis comme les billets se vendent bien, ça redonne un coup de vente de billets. Fait que c'est plus. C'est pas de la poudre aux yeux, mais c'est juste comme un petit peu un stunt pour lancer la machine
officiellement. C'est ça, c'est de la business en même temps.
Exactement.
Puis tu suggères-tu des blagues quand que. Je sais pas, tu l'écoutes-tu sur scène?
Je l'écoutais souvent, c'est sûr que toutes les shows que j'ai faites. Tu sais, parce que des fois, je reste le show en entier, puis je vais signer des autographes, prendre des photos avec lui après le show. Des fois, ça donne que j'ai autre chose, fait que je reste pas systématiquement après chaque show. Mais je l'écoutais souvent, le show, ceci dit, là, je l'écoutais beaucoup. Des fois, j'écoute une partie. Des fois, je dis, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce bout-là. J'ai déjà fait des petites suggestions comme ça, mais je trouvais ça cool aussi de pas mélanger les affaires. Tu sais, je fais la première partie. Lui aussi m'a déjà suggéré des trucs. J'ai déjà suggéré une couple de trucs.
Ah, OK. Ah, c'est cool.
C'était juste de « Hey, dis ce mot-là à place de ce mot-là. » Je l'essayais, puis il avait raison ou pas. C'est arrivé que finalement, c'était moi qui avais raison.
C'est des petits détails.
J'ai des petits détails. Tu sais, moi, quand j'écoute le show en entier, je l'écoute puis après ça, j'ai dit plus comme... Il me demande plus mon avis de façon générale que... Parce que lui, il y a des auteurs, il paye déjà des gens pour ça.
Ouais.
Fait que je voulais pas mélanger les affaires de... Ah, mais le gars que je t'ai suggéré, vraiment, tu l'as mis, puis tu sais, comment...
Toi, c'est plus des flashs, genre, qu'il donne.
Ouais, exact. Puis c'était plus... Des fois, c'était juste pour jaser. « Hey, tu parlais de tel sujet, finalement, ça m'a fait penser... » Ah, puis on finit par jaser d'un sujet sans que ce soit des idées de gags précis.
Ou du travail.
C'est ça. Puis quand on se voit, on est en mode travail, puis après le show... On se
en mode relax.
Ouais, exact. Puis je sais qu'après un show ou avant, c'est pas là que t'es le mieux disposé pour jaser de ton matériel. T'es mieux de mettre des séances d'écriture qui ont déjà été faites. Fait que le show, il est fait, il est content pour le show. Fait que je vois pas nécessairement l'intérêt de...
Moi, j'aime plus direct après le show. Là.
Ouais.
Moi, parce que c'est comme... C'est là que ça se passe, puis j'ai pas beaucoup de mémoire.
Mais toi, quand tu fais des numbers de 10-15 minutes, peut-être, quand tu fais un show de 1h45...
Là est la différence.
Même un headline, après, quand tu as 45 minutes, tu es sur scène ou une heure.
Tu veux pas jaser avec ça.
Tu peux, mais tu es moins ouvert. Il y a la fatigue. Ton cerveau est saturé.
Tu as comme un peu moins de patience.
Ouais. Oui, puis si ça a bien été, tu veux pas te faire péter ta balloune. Si ça a mal été, c'est pas le moment où tu es le plus réceptif. Fait que dans les deux cas.
Ouais, exact. Hein.
Fait qu'après un show, souvent, c'est mieux de jaser. Tu peux parler des sujets que la personne a appliqué sans y dire « Hey, tel gag, je pourrais dire telle affaire parce qu'il ne le retiendra pas. » Puis à la limite, ça va même peut-être l'irriter un peu. Je parle pas d'anctyl, je parle des gens en général. C'est pas là qu'on est le plus réceptif, je pense.
Ouais, c'est vrai, ça, man.
Mais quand tu fais un bit de 8 minutes au jockey, c'est pas assez long pour que je sois épuisé. Là, c'est le temps de jaser, on est à chaud. Ça, c'est vrai. Tu sais, après, justement, t'es au bordel, puis j'ai fait un 12 minutes, puis il y a un gag que t'as eu une idée en voyant un de mes gags, tu viens me le dire, je vais être très réceptif, puis même que je vais le noter sûrement immédiatement.
Ouais.
Mais si ça fait une heure que je suis sur scène, puis tu viens me dire des commentaires après, À moins que ce soit vraiment quelque chose d'une affaire précise, puis que ça soit, tu sois sûr que c'est de la bombe que tu as à me dire. Sinon, je serais peut-être juste pas. Je serais pas non plus à ta gueule, mais ouais. Je vais faire oui, oui, écrire une bonne idée, mais je vais l'oublier.
Fait que c'est ça que tu as fait avec moi l'autre fois.
ben, c'est trop. Je voulais pas qu'on règle ça là, devant des gens, mais maintenant que t'en parles, oui. C'est exactement. C'est
le gars, il prend fucking.
Ouais, ton podcast un peu. C'est le fun, ouais.
Hey, c'était-tu le fun, le podcast à Dieu? Ben, il m'a collé ses doigts.
À cause d'une situation qui n'est pas arrivée, que j'ai. En tout
cas. Hey, ben, Krim, la première partie est déjà.
Hey, déjà, on commence à peine.
Fini. Ben, ouais.
Yeah, 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 yeah.
Yeah. Fait qu'on en repart ça. Moi, ça, je voulais jaser d'écriture avec toi parce que t'es pas mal reconnu, toi, pour ta plume aussi. T'as écrit pour la radio, t'as écrit pour plusieurs humoristes.
Oui.
Surtout sur des one-man shows.
Une couple de one-man shows. Emmanuel Bilodeau, Maza, Mariana Maza.
Ah ouais, OK.
Ouais, ouais. Jérémy Demé. En ce moment, Maxime Martin. Mm-hmm. Il commence à travailler sur son prochain show. Là, j'ai commencé à travailler avec lui. J'avais même participé à des brainstorms quand Phil Roy créait son show. Fait que je suis pas auteur... officiel, mais on a eu quelques brainstorms à l'occasion pour sortir des idées pour son show.
Mais ton nom sort souvent, je pense, pour...
puncher.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, moi, c'est, à chaque fois que j'ose avec des humoristes, tu es comme reconnu comme un puncher.
Ouais. Ben, même ça me suit depuis longtemps. Même en impro, c'était comme ça. Dans le temps, je faisais beaucoup d'impro au cégep et tout ça. On m'envoyait sur les impros. C'était pas disons, pour construire plutôt que pour aller... puncher, tu sais, niveau réellement au propre du terme. Puis, ironiquement, c'est drôle parce que quand j'étais à l'école d'humour, j'ai à peine passé le cours de liner. Il y a un cours d'écriture humoristique. J'ai passé comme genre 62%. Puis le prof trouvait que mes liners, ça laissait à désirer. Puis aujourd'hui, c'est pas mal comme ça, je gagne ma vie. C'est venu, je sais pas, c'est peut-être. C'est
instinctif.
Ben, c'est juste mon style d'écriture. Ouais. J'aime les grosses images fortes, je suis capable d'écrire beaucoup de gags, j'écris pour Piment Fort, entre autres. Fait que c'est beaucoup, il faut écrire beaucoup,
ouais,
beaucoup de blagues.
Ouais, ouais, c'est ça, man. Tu t'es revenu pour une deuxième saison.
Ouais, là. Ouais. On a presque fini, là, en fait. Justement, je tournais hier. Parce que comment ça fonctionne, c'est qu'on écrit une semaine, l'autre semaine, on est en tournage. On est toujours un peu en train d'écrire, mais on est deux équipes de trois auteurs. Fait que ça alterne les. Il y a 14 semaines de tournage. Il y a 28 semaines de tournage, puis on en fait. 14. En fait, il y a 14 semaines, il y a 20. C'est ça, ouais. Il y a 28. 4, ouais, ça veut dire qu'on est là. On écrit sur 7 semaines de tournage. 10, 12, c'est ça. Au nombre impair. Fait que dans le fond, on écrit 7 semaines chaque. Puis on joue. On va au tournage 7 semaines. Tu sais, on est attitré à un humoriste en particulier. Ouais. On y écrit des gags. Quand c'est le tournage, on arrive. On est là pendant 2 jours. Puis on est associé à l'humoriste. On lui donne des suggestions. On lui donne les gags. Il choisit ceux qu'il préfère. Parce que pour chaque prémisse. Comment ça fonctionne, c'est que chaque prémisse de... Ça va peut-être briser la magie de certaines personnes qui pensent que Piment Fort, c'est improvisé. Mais si c'était improvisé, ce serait vraiment mauvais. Ben, des fois, ça arrive qu'on improvise un truc puis c'est bon, mais c'est une affaire. Mais un show complet, ça serait moins... Puis là, on aurait des jokes méchantes gratuites. L'écriture permet de garder un canevas un peu plus serré.
Ouais.
Mais tu sais, mettons...
Le monde partirait sa panique. Ben, c'est... dirait de quoi de même dans la TV. Puis...
Ben oui. Mais,
oh, c'est... Fuck.
Mais c'est ça qui l'ancienne version avant Piment Fort, il y a 10 ans, c'était pas écrit, c'était écrit un peu d'avance, mais il écrivait des jokes le jour même. Fait que des fois, ça sortait un peu tout croche. Alors que nous autres, on arrive devant l'humoriste, puis on lui donne des options. Pour chaque prémisse, il y a environ 5-6 punchs qu'il peut choisir. Mm-hmm. Fait qu'il faut écrire, mettons, pour en choisir un, il faut avoir écrit 6 gags. Là. Fait que on écrit des centaines et des centaines et des centaines de gags par semaine.
Puis comment t'as eu la job? C'est toi qui as postulé pour?
Ben, ils ont fait un appel à beaucoup de gens là, au début. Là, quand
c'est un email?
Ouais, ben moi, je connaissais assez bien Michel Sigouin, qui est le script éditeur de Piment Fort, est aussi le script éditeur du show de Maza. Fait qu'on travaillait ensemble sur le show de Maza. Fait que quand il y a eu la job d'être script éditeur sur Piment Fort, lui, il a donné des noms de gens qu'il voulait avoir en audition. J'ai pas eu la job à cause de ça, mais j'ai eu une audition plus. J'ai été mis dans la liste. De toute façon, je pense que j'aurais été mis dans la liste quand même parce que je pense dans le milieu, mon nom ressort assez rapidement quand on nomme des gens avec qui on pourrait écrire des liners. Mm-hmm. Puis on a eu une audition.
Comment? Ça se fait que ton nom, il sort de même. Tu travaillais pour ça, c'est tout ça. T'avais-tu un objectif d'exceller là-dedans, d'être le meilleur possible, genre de qu'est-ce que toi t'es capable de faire,
quand on en parlait tantôt, que j'allais dans les soirées d'humour, au début, quand je suis sorti de l'école, moi je faisais déjà des choses dans des bars, même quand j'étais à l'école, je connaissais un petit peu le réseau. Puis je savais que si je voulais faire ça dans la vie, à temps plein, et pas avoir obligé d'avoir deux autres jobs en même temps, fallait que je mette plusieurs cordes à mon arc. Juste faire des shows de scène,
c'est pas assez.
C'est, t'sais, mettons, là, aujourd'hui, je pourrais vivre que de ça. Mm-hmm. J'aurais moins, mettons, de facilité, mais je pourrais, t'sais, je préfère juste des shows. Mais gagner sa vie juste en faisant des shows, c'est
puis
vraiment
difficile. Puis bien la gagner.
Ouais, exact. Puis pas juste survivre à la scène.
C'est ça. Si tu veux avoir une maison,
mais même si tu veux avoir une vie, tu sais, si tu veux juste pas trop avoir de stress à ce niveau-là, puis juste parce que j'aime ça aussi travailler, tu sais, puis j'aime ça écrire. C'est pas juste parce que je voulais gagner de l'argent, là, c'est parce que j'aime ça écrire. Fait qu'au début, j'allais beaucoup dans les shows d'humour, puis je donnais des gags à beaucoup de gens. Je donnais des gags. Tu sais, il y a pas beaucoup de monde à qui tu peux parler dans le milieu que tu connais, là, qui ont pas déjà eu un gag de moi d'une façon ou d'une autre. Puis c'est pas qu'ils me doivent quelque chose, c'est juste qu'au début, j'ai vraiment... J'ai semé
t'en
beaucoup.
T'en as chié. En
fait. J'ai beaucoup, puis c'était toujours très de bonne foi. Puis c'était toujours des gens que je considérais que j'aimais leur travail et tout ça.
C'est ça. Fait que les en partant, ça part de là.
Ben oui, ça part de là. Puis tu sais, un des premiers, puis j'ai dit, quand je le présente, je le mentionne à chaque fois, Stéphane Poirier, qui est un premier à qui j'ai donné des gags, puis qui m'a fait « Tiens, voyons, c'est vraiment un bon gag. Hey, on va l'écrire ensemble. » Après ça, il m'a demandé d'écrire sur des galas juste pour rire, sur le gala artiste et tout ça. Fait que, c'est pour ça qu'au début, moi, je savais que j'allais pas prendre une personne à maner puis qu'avec elle, tout allait se déclencher. Fallait que je s'aime beaucoup. Fait que j'ai donné beaucoup de gags à beaucoup de gens. Il y a des gens à qui j'ai brainstormé une fois puis ça a été fini.
Puis en même temps aussi, c'était de bon cœur. C'était pas dans l'obtention qui te donne de quoi m'emmener.
Pas du tout. Mais je savais que si je voulais que mon nom se fasse, puis avoir une chance.
Généreux.
Oui, il fallait être généreux, puis pas être avare de mes gags, puis pas dire, hey, là, je t'en ai donné un, tu me dois quelque chose. Pas du tout. Il y a des gens à qui j'ai donné des gags, que ça s'est arrêté là, puis les gags, ils l'ont gardé quand même. Mm-hmm. Ils m'ont pas donné de job pour autant, puis je leur en demande pas non plus. Mais il y en a d'autres à qui j'ai développé des affinités, des complicités aussi, des amitiés, qui sont nées de ça. Et de fil en aiguille, ça a fait boule de neige. Puis là, ben, mettons justement, Stéphane Poirier, ben, il a été auteur résident juste pour rire pendant 2-3 ans. Avec lui, ben, j'étais dans ses bonnes grâces, il m'aimait beaucoup. Fait que quand il avait besoin de quelqu'un, il m'appelait. Puis après ça, ben, ça m'a fait travailler avec des gens qui Emmanuel Bilodeau, j'ai écrit sur son gala grâce à Stéphane Poirier. Emmanuel a aimé mon travail, il m'a demandé d'écrire sur son show. Fait que des choses comme ça. Du monde comme Maza, ben Maza, c'est parce que j'ai été un des premiers dans le milieu à y parler, puis à y dire que ça faisait plaisir de l'aider, puis à y dire aussi, ta femme, tu t'aïeules des fois, Maza. Parce qu'une des premières choses que j'y ai dit dans la vie, c'est ça. Parce qu'au début, elle rentrait dans les loges, Mariana, puis.
Elle arrêtait pas de parler.
Ben, elle-même encore dans la vie, mais personne la connaissait. Ben, elle parlait
comme son nom
si,
de show, femme t'aïeule,
qui est parfait, tu sais. Mais elle rentrait dans les loges, puis elle faisait comme si elle nous connaissait depuis qu'on avait fait élever les cochons ensemble, puis personne la connaissait. Je sais que c'était pas de mauvaise foi, c'est parce qu'elle m'aime. Mais je suis un des premiers à y dire ça, puis elle a apprécié ce genre d'honnêteté-là, puis. C'était aussi un peu en joke, et je disais ça, mais elle a compris, là, regarde, t'as des croûtes à manger, puis là, tu vois, elle a compris ça, elle a travaillé super fort, puis là, aujourd'hui, elle vend des billets, puis ça, on peut en faire.
Ah oui.
Fait que je pense que...
Ah, ben, des fois aussi, ça fait du bien de se faire mettre à sa place.
Absolument, puis ça m'arrive assez fréquemment de le faire. Elle m'appelle des fois, puis là, ah, ben là, je travaille trop, puis là, ils veulent de moi dans des films, puis je dis, hey, Maza, pour vrai, là, tu m'appelles, tu te plains que t'as trop de job.
Ouais.
Là, je la brosse un peu, puis c'est aussi toujours gentiment en amitié, mais...
Je t'ai arrêté drôle que toi, tu l'appelles juste nowhere d'avant. Hey, femme,
c'est déjà arrivé presque, tu sais. Genre, elle est en train d'harceler Michel, qui est son script éditeur, pour une niaiserie. Puis là, moi, je l'appelle. Hey, tu lâches-tu? On est en meeting depuis mon fort. Décroche.
décroche,
mais tu sais.
Il n'y a pas une toi dans la vie, tabarnak!
Ben, ça, il faut y rappeler des fois. Mais ça, il faut le rappeler à tout le monde. Mais c'est ça, je pense que j'ai juste... J'ai proposé ma plume à beaucoup de gens au début, puis ça souvent c'est revenu, fait que je me suis mis à travailler, fait que ma plume est devenue de meilleure en meilleure, puis là, la demande a juste fait juste monter en conséquence.
Puis toi, ça, t'as écrit pour la radio?
J'ai écrit pour la radio un peu, ça c'était plus au début.
Okay.
Mario Grenier, qui est lui qui a créé le Grand Rire à Québec. Au départ, le propriétaire de Québécom. Au départ, là, ça l'est plus, là, il y avait ses actions et tout ça. Mais lui, au départ.
Là, c'est Sylvain.
Sylvain Parent-Bédard, exact. Mais il était associé avec lui. Mais lui, Sylvain, il a acheté les actions à Mario quand il a voulu quitter, parce qu'il est un peu plus vieux. Mais lui, son frère m'avait vu à Gatineau jouer. Il avait adoré ça. Il avait dit hey, je vais dire à mon frère à Québec de venir te voir. Puis là, j'avais pris ça un peu à la légère.
Ben, c'est venu. Exactement ça, je m'aurais dit, moi aussi. Ben oui, c'est ben, ça, ton frère.
Puis moi, son, Mario Grenier, j'avais déjà entendu ça, mais je savais pas que c'était à ce point quelqu'un d'important à Québec. Tu sais. Il était venu me voir en show, il avait adoré ça. Fait que ça a été un peu mon agent pendant à peu près un an. J'ai fait des shows à Paris, à grâce à lui, tout ça. Puis lui, il travaillait à la radio.
Tu de même You Humour
Non, You Humour, ça, c'était du monde qui était venu ici au Québec d'un channel français qui voulait capter un show avec des humoristes de la relève québécois pour mettre sur leur chaîne New Humour. Fait que ça, c'est un show qu'on a fait ici, à Laval, You Humour. Puis ça, c'était à cause de Juste pour rire. Il y avait recruté une couple de personnes, j'avais été là-dedans.
Okay. Hey, moi, la musique d'intro, là, elle me reste dans la tête. Là.
C'est un très cirque.
Ah, oh, sacrément, merde. Moi, je suis comme avec toutes les bulles en arrière.
C'est comme hallucinant.
Chris, c'est nice, mais tabarnak, je suis pas capable de me sortir ça de la tête.
Mais ça a été cool, ça.
En me mettant du beurre sur mes toasts.
C'est ton beurre frit qui est frit de ta toast. Mais non, ça a été cool. Là-dedans. On a eu un beau cachet, puis on avait invité à souper après. Ça a été vraiment un contexte de gala.
Puis c'est nice aussi, la... De les circonstances de tu sais man tu sais quand il est comme dans un gala en plus je pense que tu venais de sortir de l'école
ça faisait pas longtemps ça faisait peut-être c'était quoi début 2012 fait que ça faisait peut-être un an ou deux j'étais sorti même pas puis ça puis en 2011 juin 2011 j'avais fait un show à Paris avec le Grand Rire grâce à Mario Grenier qui m'avait plugué là puis j'étais avec Jean-Martin Matt puis les Chicken Swell puis Cathy Gauthier puis j'étais bien impressionné mais rendu là-bas je me suis rendu compte qu'on était tous au même niveau parce que personne ne connaît personne on était à Paris personne ne connaissait Martin Matt
ben vous êtes tous à la même
on est tous puis tu sais ça au début moi j'étais bien impressionné là, puis avec raison j'étais avec Martin Matt sur le show mais humblement son numéro n'a pas mieux été que le mien tu sais parce que le monde ne sont pas partis en disant oh wow Martin Matt puis pas oh wow Simon Delisle tu sais c'était tout Martin Matt.
On n'a rien compris. On n'a rien compris.
On a rien compris.
Ah, c'est québécois.
Oh, putain, on n'a rien compris. Du malamute. Il ne comprenait pas. C'est pas le public le plus chaud. Parce que celui-là, je l'ai fait juste un. Je veux pas dire que mais le public de Paris.
J'ai tout vu la France.
J'ai vu la France, mais j'ai fait un show. Mais, fait que ça, j'ai écrit pour la radio pour lui à Québec, car j'y écrivais des jokes pour son émission. Fait que c'est un petit peu pour la radio. À ce niveau-là, surtout, j'ai déjà collaboré avec des gens qui faisaient, mettons, Eric et les Fantastiques faisaient des chroniques, puis je les aidais un petit peu, mais je n'étais pas engagé officiellement comme dans le poste de radio.
Okay. Un writer là-bas.
Non, on me l'a proposé pour écrire pour des émissions, mais des fois, soit c'était des affaires, ben on va te demander 10 gags, mais ça se peut qu'on te demande d'en réécrire 30 pour un salaire de crève-faim. Puis des fois, la radio, c'est quand même assez exigeant. Là, si t'as un beau contrat à l'année, mettons, officiel, qui te paye...
Permanent,
comme c'est ta job, OK. Mais quand c'est au contrat, souvent, on te demande des réécritures à plus finir. Puis c'est parce que tu me demandes 10 gags, je vais t'en prendre 10 bons, après ça, c'est fini. Là, si tu me rappelles 4 fois dans la journée pour t'en réécrire d'autres pour le même salaire, c'est un peu ingrat. Ouais. Alors que des émissions comme Piment Fort, ben, on a des choix à écrire, puis on sait que c'est notre nombre de gags-là, on les donne, après ça, c'est aux humoristes de choisir le gag. Ouais. Des fois, on rafistole un peu pour s'il y a un panéliste qui peut pas être là, fait qu'on le change pour quelqu'un d'autre, fait qu'il faut modifier des gags. Ouais. Mais de façon générale, c'est un salaire fixe qui est très... proportionnel au travail qu'on fait. Okay. Fait que la radio un peu moins, beaucoup, la télé, ben c'est ça. Piment beaucoup.
T'as-tu écrit pour d'autres shows à la télé?
Slack la cravate à Télétoon avec Mathieu Cyr.
Ok.
On a parti ça from the scratch, c'est nous autres qui a créé ça. Après ça, ben, le Galartiste avec Mario Tessier qui avait été assez difficile.
T'as travaillé sur une couple de galas, toi.
Ouais, Galartiste, cette année, je travaille sur mon 4e gala juste pour rire. Parce qu'il faut 4 fois que je suis auteur sur un gala juste pour rire, puis j'ai écrit sur 2 galas comédia. Deux.
Puis auteur, mettons, c'est quoi que ça veut dire, ça, auteur, gala juste pour rire, pour le monde qui sont pas familiers, mettons, avec ça?
On aide à écrire un peu l'entièreté de ce que l'animateur fait, c'est-à-dire le numéro d'ouverture.
OK, l'animateur.
Tout dépendant de comment l'animateur voit ça, il y en a qui font un numéro d'ouverture, un à milieu. D'habitude, c'est ça.
Travailles-tu sur les thèmes? Parce qu'il y a souvent des thèmes.
Non, ça, c'est vraiment... parce que à Juste pour rire, il y a le producteur au contenu, puis tu as toujours 2 auteurs résidents, que eux qui travaillent pour Juste pour rire à l'année, sur tout ce qu'ils font, sur tout ce qui est spectacle.
C'est-tu qu'est-ce que Stéphane Poirier faisait avant?
Exact. Puis là, c'est Pierre Fiola puis Julien Tappe. Fait qu'eux autres, ils sont, mettons, il y a 6 galas. Fait qu'eux autres, ils travaillent chacun sur 3 galas d'emblée. Après ça, il y a les animateurs Puis il y a les script éditeurs qui sont choisis en général par les animateurs. Puis ceux qui décident les thèmes, c'est vraiment les auteurs résidents Juste pour rire, producteurs au contenu, puis du monde de chez Juste pour rire. Fait que les auteurs à ce moment-là, parce que moi je suis engagé après. Un coup que les thèmes sont sortis, un coup que les animateurs sont choisis, un coup que les animateurs ont choisi leur script éditeur, et des fois un auteur ou leur metteur en scène, tout dépendant. Mm-hmm. Habituellement, là, Juste pour rire, ont le mandat de trouver ou pas, parce que c'est pas nécessairement tous les gars-là qui en demandent, un auteur de plus pour venir closer l'équipe puis venir aider à repuncher. Okay. Puis moi, ben, cette année, Patrick Groux, lui, il y avait Joseph Saint-Gelin à la mise en scène, il y a François Avoir à script édition, il y a Pierre Fiola qui est auteur résident Juste pour eux, qui est là d'emblée, puis il cherchait quelqu'un d'autre pour aider à puncher puis tout ça. Puis Christian Villot, qui est le producteur au contenu, a nommé des noms, dont le mien. Puis quand il a nommé mon nom, il a dit « Ah oui, je suis Simon Delisle. »
C'est-tu souvent ça de même, tu sais? Chaque animateur se trouve un auteur puis un gars de mise en scène.
Ouais. Oui, souvent.
Ils font une petite équipe de même.
Mais souvent, le script éditeur puis le metteur en scène, l'animateur a son monde avec qui il aime travailler.
Ouais.
Le script éditeur et le metteur en scène est souvent... le monde, mettons, qui script édite et qui mise en scène son one-man show ou qui a déjà fait ça. T'sais, ils se connaissent
d'habitude. C'est ça, ils savent qu'ils travaillent bien ensemble.
Pas nécessairement. T'sais, ça arrive des fois qu'un animateur, mettons, justement Emmanuel Bilodeau, qui lui avait jamais fait ça, s'est fait donner une équipe par rapport à ce que Juste pour rire considérer qu'elle est bien fitée.
Bien fonctionnelle.
Ouais, parce qu'il y avait, Stéphane Poirier, il y avait moi. Puis la mise en scène, c'était. Je me souviens plus de mes anciens. Honnêtement, c'est un petit blanc. Mais c'était, lui, il commençait. Il avait pas encore son one-man show de fait. Il avait juste fait un numéro Juste pour eux qui avait 20 pognés. Fait qu'ils ont demandé d'animer un gars-là. Puis il a dit oui. Fait que voilà.
Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation dans des galas puis tout ça.
Mais tout dépendait de la personne qui anime. Il y en a qui sont plus rodés. Là, comme Patrick Groux, c'est un pro. Là, il fait beaucoup de shows. Fait qu'on l'aide à écrire son numéro d'ouverture. On l'aide à écrire les présentations. Tu sais, quand le pacing des humoristes sort, là, on y écrit des présentations qu'il fait avec les humoristes. Puis on trouve ce qu'on appelle des quickies. Des quickies, c'est genre des mini-sketchs ou des mini-jokes, des petites affaires entre les humoristes. T'sais. C'est genre, ça être un numéro, mettons 10 minutes, mettons un petit 1 ou 2 minutes que, intervention de telle personne. Ah, là, tu pourrais faire un gag sur ça. Ah, là, tu pourrais faire un callback sur ça. Là, t'arrives
déguisé. Tu restes-tu sur le show, toi, pour. Mettons, justement, tu sais, je sais que Mike Ward avait engagé François Boulian à m'emmener juste pour genre qu'il aide à y trouver des punchs pendant qu'il animait.
Ben moi, quand t'écris sur un gala, à moins d'une force majeure, t'es mandaté pour être là toute la journée. Là,
c'est ça, là.
Fait que moi, j'arrive dans la matinée des galas. On est là toute la journée. On fait des pratiques. Ah, finalement, tel gars, il faudrait le changer. Ah, tel humoriste peut pas être là, il va être remplacé par tel. On change le pacing de bord, faut changer ce gars. T'sais. Fait qu'il y a d'ajustements à faire. Sans être nécessairement trouver des gags live en coulisses pendant le show. Mm-hmm. C'est plutôt avant. Puis même pendant le show, là, s'il arrive de quoi d'imprévu, on est là stand-by. S'il faut écrire de quoi, s'il faut changer quelque chose sur le téléprompteur, tout faire en sorte. Parce que, tu sais, même si le gars-là est écrit, puis la photo a l'air bien belle, il va arriver bien des affaires pendant la journée qui vont faire en sorte que ça va être le.
Ben oui, même en plus, sur des gros projets de cette envergure-là, c'est sûr qu'il peut arriver des petits pépins assez rapidement.
Oui, puis tu sais, là, il y a toujours une fois que c'est tourné, notre nom.
Ouais.
Où ils tournent les deux, puis ils font un montage des deux à la fin. Fait que, puis tu sais, le show de 6h30, ça, parce qu'il y a deux shows par soir d'habitude, les gars-là.
Mm-hmm.
Puis des fois, telle heure, il va y avoir plus de critiques, telle heure, il va y avoir moins. Ouais. Fait que des fois, le show plus tard, on peut se permettre qu'il soit un peu plus long parce qu'on peut dépasser, l'autre, on peut pas. Fait que, tu sais, il y a plein de petites contraintes comme ça qu'il faut gérer un peu. Puis des fois, t'arrives, puis le show coule tellement facilement, puis il n'y a pas vraiment d'anicroche. Puis d'autres fois, on dirait que tout arrive en même temps. Fait que c'est du cas par cas. Fait que oui, on est là pendant le show.
Puis là, vu que je vais en profiter, vu que t'es là, moi, il y a une question que je me suis demandé. Pourquoi qu'à Juste pour rire, il y a tout le temps des thèmes?
Ouais, ben les thèmes, c'est pas tout le temps. Là. Ça fait peut-être comme quoi 5 ans ça existe. Avant, il n'y en avait pas.
C'était c'est ça, parce que moi, de toute manière, je viens de commencer en humour, tu sais. Fait que, je viens de commencer, ça va faire 4 ans dans pas long. Mais, tu sais, moi, Juste pour rire, avant, je savais même pas vraiment c'était quoi à part de le voir à la télé. Tu sais. Fait que, mais tu sais, je me demande pourquoi ils ne pourraient pas juste avoir un show normal.
Mais c'était ça avant. Avant, c'était plus l'animateur qui vendait le gala. C'était le gala de Laurent Paquin, le gala de Mike, le gala de... Bon, peu importe. C'était le thème était l'animateur, en gros. Puis l'animateur mettait une couleur à son gala. Après ça, l'idée des... Moi, c'est ce qu'on m'a dit, là, peut-être qu'on pourrait me contredire, mais pas mal sûr de ce que je vais avancer. C'est pour vendre plus à la télé. Simplement comme ça. C'est pour la télé. C'est pour la télé, puis pour le package vendeur de ça, de le gala de la luxure, le gala des épais.
Des vedettes.
Le gala des vedettes, le gala jeune versus vieux. Fait que ça va comme aiguiller les gens, puis pas tellement au niveau des... Parce que les billets se vendent pas plus ou moins à cause de ça. Ouais. C'est plus le package télé.
Ouais.
Donc TVA, qui est le diffuseur des galas juste pour rire, et peut-être qu'il y a des subventions reliées à ça, peut-être qu'il y a une question d'argent aussi, ça je pourrais pas dire. Mm-hmm. Mais c'est vraiment pour vendre un package de samedi à 7h, on passe le gala luxueux.
Ouais.
Et là, les gens sont plus. Tu sais, le gala juste pour rire, ça tombe un peu dans l'oubli. Le gala luxueux, c'est comme si. Ah oh là, il y a une.
Il y a de quoi de nouveau.
Ouais, il y a quelque chose de précis que j'écoute. Bon, fait que c'est plus pour aiguiller ça. Tu sais, en quoi ça a été réfléchi et songé en se disant il va y avoir plus de codes d'écoute si on fait ça, je sais pas. Mais ils ont signé un contrat qui les oblige ou qui stipule qu'il faut qu'il y ait des thèmes au gala pendant un certain nombre de temps. Mais ça, ça ne durera pas. Je pense pas. Je sais pas si ça va revenir. Je pense, je pense que cette année ou l'année prochaine, c'est supposé être la dernière année, ils sont obligés de mettre des thèmes. Après ça, ils vont décider de poursuivre. Ou, selon moi, ils vont décider de revenir à la formule d'avant parce que là, ils doivent commencer à manquer. Parce qu'il ne faut pas juste qu'ils trouvent des idées de thème, il faut qu'ils trouvent des idées de canevas. Ouais.
C'est ça.
On a vu cette année que ça a été un peu difficile.
Ben, c'est ça, là, justement, avec le gala juste féminin là, qui a vraiment été mal reçu dans le milieu.
Ouais. Ben, puis tu sais, je comprends. Mais en même temps, pour connaître un peu l'autre côté de la médaille et travaillant à l'interne, souvent, je sais que c'était pas mal intentionné. C'était pas dire que les filles, c'est un style du monde en particulier. C'était plus comme un gala hommage aux femmes qu'ils voulaient faire. Puis c'est juste bizarre de dire, ben, tu sais, dans l'ADN de l'humour, parce que le thème principal des galas cette année, c'est l'ADN, c'est on décortique l'humour avec stand-up, raconteur, personnage, absurde,
ouais,
tout
ouais,
ça.
C'est ça.
Fait que, mais, féminin, c'est comme si féminin était un style d'humour à part entière, alors qu'être féminin, c'est comme être un homme, c'est comme être un mammifère, c'est juste être, tu sais, c'est juste être faire partie d'un groupe, mais c'est pas un style d'humour. Une fille peut faire de l'humour autant qu'elle fait de l'humour autant qu'un gars. C'est pas de l'humour de fille, c'est une fille qui fait de l'humour.
T'sais. Ouais, c'est
et ça. Et ça a été mal perçu dans ce sens-là, puis je comprends. La sonorité, ça sonne bizarre. Gala féminin à côté de gala absurde, c'est un style d'humour.
Le gala juste féminin aussi.
Ouais.
Peut-être ça qui...
Juste féminin, puis tu sais, vas-tu juste avoir des filles, puis...
C'est sûr que non.
C'est sûr que non, mais... Puis autant que le gala juste gars n'aurait pas pu se passer.
Ouais.
Mais le gala juste gars n'aurait pas passé pour les mêmes raisons que le gala juste fille.
Mais tu sais, moi, de la façon... Moi, c'est pour ça que je comprenais pas vraiment c'était quoi la problématique, parce que moi, dans ma tête, comment je l'avais vu, mais en même temps, je connais rien là-dedans.
Là. Il était de bonne heure. Non, mais il était 10h30.
Non, je suis en train de faire mes toasts. Non, mais moi, si je me disais, tu sais, il n'y a pas de honte à... Moi, de la façon dont je voyais ça, c'est comme si... Tu sais, il y en a des humoristes qui vont rejoindre plus les femmes.
Oui.
Tu sais, fait que son public, c'est plus les femmes. Tu sais, qu'il y en a aussi j'ai tout le temps peur de te dire d'une mauvaise façon puis sonner au bout de raciste.
Je vais rephraser si c'est pas correct.
Ouais, c'est ça, tu me reprendras.
Je sais que t'es pas de mauvaise foi.
Tu sais, ça, des personnes ethniques qui vont faire de l'humour ethnique.
Oui.
Puis ils vont rejoindre plus, justement, les personnes.
Une communauté précise. Oui.
Exactement, tu sais.
Ben, comme moi, j'étais un peu geek. Fait que c'est sûr que certains de mes numéros, certains de mes thèmes vont aller chercher plus une partie des gens en particulier. C'est juste qu'il y a tellement un gros combat, un combat, là, c'est peut-être pas le bon mot.
Ben, c'est parce que les femmes veulent faire leur place, puis ils l'ont pas mal fait aussi, mais tu sais, ils veulent encore en... mais c'est pas un combat qui est déjà gagné d'avance non plus.
Le préjugé est encore très très fort.
C'est ça.
Dans l'humour, en tant qu'humoriste, à l'interne, il y a déjà eu des préjugés sur les femmes qui font de l'humour. Maintenant, en tant qu'humoriste, je considère que Mélanie Ganimé est égale à Alex Douville, dans le sens que c'est le même travail. Je fais pas de différence entre les deux. Mais parce que je fais ça dans la vie. Mais des gens, des fois... du monde de partout. Là,
la fameuse question, est-ce que tu dur pour une femme?
Ou t'es drôle pour une fille? Les filles entendent encore ça. Il y a encore ce clivage-là qui existe. C'est que de mettre des filles dans un groupe d'un gala, c'est ça qui fait en sorte que ça met encore plus. Là, il existe un humour de filles.
Mais c'est ça, je pense que ça a juste été mal pitché. Oui,
très mal pitché, puis ça a été mis dans le mauvais canevas, ADN de l'humour. Ça avait été, mettons... je ne sais pas, hommage. Là, on fait, mettons, un gala hommage au sport, un gala hommage aux gars, un gala hommage aux filles. Alors, ouais. Là, ça n'aurait pas été pareil parce qu'on aurait fait comme, on va encenser les filles, puis on va parler de la féminité. Là, on va parler des femmes dans l'histoire. Là, c'est pas pareil. Mais là, c'est plus vu comme, on va faire des jokes de menstruation, de boules, puis tout ça. Ouais. Puis dans le mail qu'on avait reçu des descriptions de gala, c'était écrit, on fera pas juste des jokes de ça, mais de préciser, c'est comme le souligner, puis ça fait... Ouais. Il y a eu beaucoup de quiproquos et de mésententes à ce niveau-là. Puis tu vois, ils se sont bien rattrapés. Ils ont fait le gala sketch à la place.
Ah, oh, OK. C'est ça qu'ils ont trouvé, finalement?
Ouais, c'est okay. Sketch. Ça va être des sketchs. Puis tu sais, ça, c'est une bonne idée. Puis Virginie Fortin, qui était une des principales porte-étendards de le gala féminin, ça n'a pas de sens, elle va animer ce gala-là. Avec Antoine Vézina puis Léane Labrèche d'Or. Fait que tu vois, ils ont quand même réussi à rattraper. Puis je pense que c'était, honnêtement... connaissant les gens, c'était vraiment de mauvais. C'était vraiment pas de mauvaise foi. Je pense que ça a été...
Ça aurait été drôle que ça soit le contraire, que ça soit de mauvaise foi. <là. rire> Tu sais, genre comme... Oh, gueule,
vos jokes de... C'est pas facile à menstruer. On va tout mettre ça sur un gala, ça va
être
fait.
On va s'en débarrasser.
On va ça d'une petite salle parce qu'on remplira jamais 3000 avec
c'est
ça.
C'est ça, ça va être la balustrade au Monument c'est... National.
Bon, on va le
50...
pas...
Un soir!
Puis on va le passer à Musimax. Ouais, pas à TVA, il n'y aura jamais assez de monde. Okay. Juste de mauvaise foi, j'avoue. Ça aurait été drôle, mais imagine le tollé. Mais je pense qu'il y aurait quand même...
Non, ça passe à ma TV. Ouais, Fuck that. Poste local seulement.
Ou genre un canal qui n'existe plus. Là, qui est juste genre
canal
à Moose Jaw. Télé Moose Jaw. Il y a 3 personnes qui écoutent. Des jokes de Moose Jaw. T'attendais pas à ça le matin, hein?
Non, je...
T'étais pas prêt.
Je sais même pas c'est quoi le mot Moose Jaw.
Moose, c'est une ville, c'est genre fait... territoire du Nord-Ouest.
C'est une ville.
Ben oui. Red Deer, Moose Jaw.
Ah, ça crasse du monde pour du cadeau.
Yellowknife.
Ah, non? Ouais, Yellowknife.
Bah, c'est dans ce genre de ville-là.
Ok, mettons, ok, ok.
Qui écoutera pas ce podcast. Fait que je peux. On peut en rire un petit peu.
Bon, merde, la deuxième partie est déjà faite.
Ah, ouais.
Et que ça passe.
Ça passe vite quand on s'amuse.
Fait que là, ça, tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'écriture. J'aimerais ça te parler. T'as fait un spectacle de 60 minutes que tu rodes. Tu te promènes encore avec, c'est Avaler la pilule.
Ouais, ben j'ai fait. Aux Oufes, j'en ai fait deux des shows de 60 minutes, ouais. Un en 2013, puis 2015, Avaler la pilule.
Ok, ok. Ouais. Tu l'as pas fait en 2016, hein?
Non, mais j'avais refait Avaler la pilule que j'avais
modifié.
Revampé.
OK.
Un peu, j'avais changé, enlevé des numéros.
Un très bon spectacle d'ailleurs, je vous le recommande.
Merci, c'est gentil.
Non, mais pour vrai, je pense que je l'ai vu comme 4 fois.
4 fois?
Ouais, ouais.
Tu comprenais pas? Mais non, non. T'appréciais.
T'es trop tôt le matin.
T'as le soir, j'ai écrit. Va te coucher un peu.
Non, je me contredis.
En boire encore un instant émotionnellement.
Non, mais non, j'avais vu 2 fois la première version.
OK.
Puis je t'avais été bien curieux, j'avais été le revoir
l'année passée.
Puis un moment donné, on était en show ensemble, fait que j'en avais profité pour le réécouter, le réentendre. Puis ça, justement, tu parles beaucoup de ta maladie là-dedans.
Ouais.
Puis comment tu vis avec ça.
Ouais.
Puis comment ça s'est passé. Ça a dû être dur en crise écrire un numéro de même sans tomber dans hey, je fais pitié.
Ouais, mais ça a été ça le défi, parce que j'avais déjà parlé de ma maladie, puis fait des jokes, des anecdotes là-dessus relativement souvent, mais faire un show entièrement là-dessus. D'ailleurs, je remercie encore Martin Périzzolo qui m'avait aidé à l'écriture de ce show-là. Il avait comme été un peu un script éditeur, metteur en scène, un peu comme un œil extérieur de façon assez générale sur le show. Parce que moi, j'avais vu son show Q, que tu devais être vu, c'est en 2014, qui est comme encore
excellent,
mythique. Hein. Comme, c'est un des shows Zoufès qui est le plus marqué de l'histoire du Zoufès. Puis ce show-là parle
c'est
de cul.
C'est les pubs aussi.
Ouais. Non, exact, c'est de magie qui parle.
Des Camel Toes.
Qui parle, c'est magique. Mais ce show-là était... parlait de sexe, parce que c'est important de le nom de cul. Mais... il n'y avait aucune barrière. Ouais.
C'était pas gratuit sur...
Non plus.
Des graines, des
exact. Plates. C'était juste... littéralement, on parle de sexe parce que c'est un sujet qui se peut.
Ah ouais.
Mais il n'y avait pas de transition. Il n'y avait pas de... il y avait comme pas de coupure. C'était comme si c'était un gros numéro. Puis ce côté-là me plaisait beaucoup. Puis là, je trouvais que ma maturité d'écriture, puis au niveau où j'étais rendu là, j'étais prêt à aller parler de ma maladie. Puis pas juste... faire des jokes là-dessus. J'ai fait bien des jokes sur ma maladie, sur le fait que j'ai pas de cheveux, sur le fait que... J'en avais fait plein, j'étais bien à l'aise d'en parler, mais là, je cherchais encore la façon de l'expliquer aux gens, c'est quoi ce que j'ai, puis qu'est-ce que c'est de vivre avec ça, puis qu'est-ce que ça implique, sans tomber dans le « voyez à quel point ma vie, c'est de la merde ». La ligne est très mince, parce que moi, je le sais que je suis heureux dans la vie. Oui, ça a des mauvais côtés, puis je te mentirais pas que je changerais... Si on me demandait demain si je pouvais... Mais j'ai un gag d'ailleurs là-dessus que je dis, si on me disait que demain, on pouvait me piquer puis m'enlever tout ce que j'ai, m'enlever ma maladie, c'est sûr, je dirais oui, mais il y aurait un bout où je me sentirais comme seul, comme un syndrome de Stockholm, tu sais. T'es kidnappé, tu retournes chez vous, t'es content, mais tu t'ennuies un peu de ton ravisseur parce que t'étais habitué à vivre avec.
Tu t'es créé une routine.
Mais c'est ça, tu savais à quelle heure qu'elle était, à quelle heure tu mangeais, à quelle heure qu'elle avait crissé une volée.
T'étais frappé.
Ouais, c'est ça. Mais dans le gag, c'était ça, puis l'image est exactement ça. Fait que, puis là, de ça part le show. Puis après ça, je parle de avoir des enfants, je parle d'un bout dans ma vie où je fumais beaucoup de potes dans le temps, du fait que oui, j'ai arrêté parce que tu peux pas avoir, selon moi, une vie productive, mais qu'en même temps, c'était cool. J'en parle pas comme un genre de « Ah, c'est le moment de détresse que je suçais des pénis sur un pont. » C'était plus comme « C'était cool, là, je jouais au Xbox, je fumais des battes, j'étais heureux. » Mais à un moment donné, je voulais aller plus loin dans la vie, fait que j'ai arrêté, puis j'expliquais pourquoi. Puis ça finissait avec un numéro où je parlais qu'en troisième année, j'ai déjà chié dans mes culottes. Fait que, on partait de...
Les sept étapes.
Les étapes du deuil.
Ouais, c'est ça, les étapes de quand tu chies dans tes culottes.
C'est les mêmes étapes que quand tu as un deuil. T'es le choc, le déni, la colère, la tristesse, le marchandage d'acceptation.
T'as-tu fait un gala avec celle-là?
Ouais, le gala de l'orgueil.
Fuck, man, c'est drôle, man. J'ai vu ça à l'Abreuvoir.
Ouais, mais ça, ouais. Mais ça,
je me suis chié dessus juste maintenant.
Non, mais c'est arrivé à beaucoup de gens. Ça peut être vomir, ça peut être pisser, ça peut être juste te faire humilier quand t'es jeune.
T'sais. Ben oui.
Puis ça, j'avais Guillaume Pinault aux Oufesses. Dans le temps, il y avait un genre de show Cléopâtre qui était genre un jeu on faisait des confessions. C'était pas vraiment un show d'humour, c'était pas des numéros, mais il fallait dire à des gens quelque chose qu'on n'a jamais dit.
Un peu genre comme j'ai déjà.
Exact, c'est le même principe. Puis j'étais allé là, puis j'avais juste raconté ça sans avoir écrit le numéro, puis le monde trouvait ça drôle. Puis là, j'expliquais, puis l'idée des étapes du deuil est venue de même en popant. Après ça, je l'ai peaufiné. Fait que oui, ce show-là valait la pilule. C'était vraiment comme un... j'avais pu approuver aux gens que j'étais capable de faire des jokes. J'avais pu dire aux gens que j'avais une maladie, le monde le savait. Maintenant, c'était de mixer les deux. Fait que montrer que je suis capable de faire des jokes sur n'importe quoi, même ce qui me tient ou ce qui m'a fait le plus mal dans la vie, c'est-à-dire être malade. Et montrer que de ça est née une résilience, une persévérance, et que ça l'a fait un peu de la personne que je suis aujourd'hui.
Ben moi, c'est que ça... pourquoi je pose cette question-là, c'est, tu sais, moi, j'ai perdu ma mère, puis man, tu sais, c'est comme mon but ultime, ça serait être capable, justement, de faire un show de 60 minutes là-dessus, tu sais, puis justement, pas tomber dans « Ah, il fait bien pitié,
Charles Deschamps fait un peu ça, il aura de son show « Mon père est plus mort que le tien », puis ils vont parler de
excellent
ça.
Excellent titre,
c'est le meilleur titre ever. mais oui, c'est parce qu'il faut, tu sais... Quand tu as un sujet aussi gros entre les mains que je veux pas comparer.
Puis lourd là aussi.
Oui, exact. Lourd, ça, gros dans tous les sens du terme. Puis je veux pas comparer ma maladie à ton deuil. Puis ça n'a pas rapport de comparer les malheurs de toute façon. Mais quand tu as un sujet comme ça pesant qui fait partie de toi, c'est pas juste genre un sujet, une anecdote. Là, ça fait partie de toi.
C'est une tranche de ta vie.
Oui, puis ça fait partie de ta personnalité maintenant que ta mère soit décédée. Puis j'ai pas. J'ai pas tous les détails, mais de comment c'est arrivé, puis qu'est-ce que t'en as vécu, puis comment tu deals avec tes parents, avec tes amis, qu'est-ce que tout ça a créé une partie dans le cerveau précise, tu sais. Ma maladie aussi, tu sais. Moi, j'ai jamais été pas malade dans la vie. Je suis né avec des problèmes de santé. Fait que je sais pas ce que c'est. C'est juste en santé, tu sais. J'ai toujours eu des limites. Fait que parler de ces limites-là, c'est un peu comme quelqu'un qui me dit, ben moi, dans la vie, je vois juste en rouge et noir. OK, Chris, ça implique quoi? Ben, ça implique tout ça, tu sais. Ça a été de plus expliquer aux gens de façon humoristique plutôt que de leur dire, d'essayer de leur faire ressentir mes douleurs ou mes angoisses. C'est comme, ça implique ça.
Tu veux pas créer de l'empathie.
Non, ben, de l'empathie, à la limite, mais pas la pitié.
Ouais, c'est ça.
Puis la ligne est très mince. J'étais content parce que la réaction à ce show-là pour les critiques que j'ai eues puis les commentaires généraux, c'est...
T'as eu des très bonnes critiques.
Très, très bonnes critiques. Puis les critiques, c'était vraiment comme, tu sais, réussir à faire rire les gens avec quelque chose qui a priori semble pas drôle du tout. Ben. C'est un tour de force, puis il a l'air d'avoir du fun à le faire, surtout. Mm-hmm. Parce que le show, j'avais beaucoup de plaisir à le faire, puis j'ai encore du plaisir à le faire, puis je le refais d'ailleurs à Saint-Hyacinthe jeudi. Je sais que le podcast va passer
plus
tard.
Oui, ben, c'est ça. Mais je vais avoir l'occasion. Juste pour rire dans le cadre, juste pour rire.
Oui, exact. C'est les Best of Zoufest. Juste pour rire, prennent une couple de shows de Zoufest qui ont été bien cotés, tout ça. Puis ils refont en quelques endroits. Fait que j'ai l'occasion de le refaire un peu. Je l'ai revampé. C'est sûr qu'il y a des numéros. Mettons la première demi-heure là, où je parlerai de ma maladie, mes consommations de potes quand j'étais plus jeune ou quand je déménageais du Saguenay, puis ma perte de cheveux, tout ce chunk-là, lui, il bouge pas. T'sais. Ça, c'est la première demi-heure, elle reste la première demi-heure. La deuxième demi-heure, c'était des numéros un peu plus. Je parlais de la relation de couple, je parlais d'avoir des enfants, je parlais de chier dans mes culottes en troisième année. Ouais. Ça peut bouger un peu plus parce que c'est des sujets plus variés un petit peu. Ouais. Ils ont tout rapport. Mais ça, je peux le modifier un peu avec ça. J'ai rajouté des numéros plus récents là-dedans.
Okay.
Puis d'autres que je fais moins que j'ai enlevé. Mais ça reste le même canevas. T'sais.
Mais la première version de ces textes-là, ça a dû quand même être dur d'amener ça sur scène.
Ben, ça a été. C'est là que Martin a été très efficace. Ça a été dur de les coller ensemble. T'sais. Parce qu'un coup qu'on décortiquait de. Ah, ben là, faudrait qu'on parle de. Il a dit tu veux qu'on parle de ta maladie, on va parler de tout.
La structure du texte.
Ouais, mais pour que ça coule bien, parce qu'il fallait pas juste s'enfiler de. Bon, je fais du diabète, joke de diabète. Bon, je fais des.
Insuffisance surrénalienne. Bon, exact.
Fait qu'il fallait tout amener ça. Puis, là, il fait comme ok, mais là, t'as pas de cheveux, faut en parler. Comme moi, c'est vrai. Faut pas juste faire des jokes de chauffe. Faut que j'explique pourquoi je le suis. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, qu'est-ce que ça implique? Puis là, je faisais des jokes de c'est un deuil. Tu sais, il y a un gars c'est un deuil qui est bizarre à faire, perdre ses cheveux parce que c'est plate, mais c'est pas si grave que ça. T'sais. C'est plate, mais ça te fera pas penser à la voix. Tu comprends? C'est pas à ce point grave. Puis là, les gens veulent être gentils avec toi, vu qu'ils te disent des commentaires genre, mais t'as besoin de moins d'entretien, mais c'est pas un bon argument parce que c'est fou que tu laves quand même ta tête, même si t'as pas de cheveux. Puis là, tu sais, c'est tout de rentrer dans ce pattern-là. Puis des gens qui m'ont donné des conseils de merde, des naturopathes qui me disaient arrête de prendre tes médicaments, c'est ça qui te rend malade. Comme, ouais, mais il y a des. Si j'arrête, je meurs. Fait que la chance, tu sais, mettons que ton huile là, de foie. Là,
de Camus.
Peut-être qu'elle va marcher, mais si ça marche pas, je meurs. Je prendrai pas ce chance-là.
Pas un super bon deal.
Ben, c'est parce que si c'est, essaye-le, puis au pire, si tu vois que ça marche pas, recommence tes médicaments. C'est parce que je peux pas faire ça. Je vais décéder si je fais ça.
Bon, ben, ok, je l'essaye.
Fait que tu vois, des choses comme ça dédramatisait un peu de dire. Je vivais quelque chose, puis il y a des gens qui m'ont aidé à passer au travers, mais il y a eu des petits crétins aussi. Et ça dédramatise un peu la chose.
Il y a tout le temps des crétins.
Il y a tout le temps des crétins.
Puis il va tout le temps en avoir.
Dans le deuil que tu as fait avec ta mère, tu as eu des commentaires ou des conseils ou des jokes crétins qui ont un peu, sur le coup, n'étaient pas vraiment le fun d'entendre, mais qu'après, on fait comme, ah, c'est con. Puis ça dédramatise un peu le
ça
le
me
shit.
Donne beaucoup de matériel.
Ben oui, absolument. Absolument. Puis ton regard sur la vie a changé à partir de ce moment-là. Puis moi, mon regard sur ma vie est fait d'une façon par rapport à ce que j'ai vécu. Je serais pas la même personne si j'avais jamais été malade. Serais-tu un humoriste? Peut-être.
T'as pas tout le temps été malade, par exemple?
Oui, je suis né avec des problèmes de santé.
Ah ouais?
Oui.
OK, en partant.
En partant. Fait que j'ai jamais vécu de moments de ma vie. Ça veut pas dire que je suis tout le temps malade, couché ou dès que de la fièvre.
Ouais.
Mais j'ai toujours eu des limites. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, mon système immunitaire marchait très, très mal. J'étais souvent à l'hôpital. Après ça, ils ont trouvé ce que j'avais. Il y a une autre glande qui a lâché quand j'avais 15 ans. J'ai fait du diabète à 20 ans. J'ai perdu mes cheveux à 21. Il est arrivé comme plein d'étapes plus marquantes comme ça. Mais j'ai toujours eu des plus ou moins gros problèmes de santé à gérer. Fait que je prends des médicaments depuis que j'ai 9 ans, tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort. Il n'y aura pas de journée où je n'en prendrai pas.
Puis penses-tu que ça c'est une raison pourquoi tu fais de l'humour aujourd'hui?
Je pense que oui. Je pense que
c'est comme un système de défense.
Ouais. L'humour.
Pour désarmer justement ce malaise-là que les autres peuvent avoir. Ouais.
Oui. Puis, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je fais du vitiligo, c'est de la dépigmentation de la peau. Là. Ça paraît un peu moins maintenant, mais quand j'étais jeune, ça paraissait beaucoup plus.
Okay.
Puis, j'avais des gros spots blancs autour des yeux, des pigmentations, c'était assez marqué. Puis, ça, t'étais un ado ou un enfant, puis un enfant est acheté. C'est sûr que j'étais une cible facile, mais c'est venu rapidement. Moi qui faisais les jokes en premier ou moi qui avais la réplique facile par rapport à ça.
Fait qu'ils pouvaient plus t'atteindre.
Exactement.
C'était plus difficile.
Quand j'ai commencé à faire de l'impro en secondaire 2, ça a été un peu pour trouver ça, se me mettre en paix avec ça.
Ouais.
Puis à partir du moment que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à avoir des blondes, parce que j'étais assez confiant en moi-même que maintenant mon physique était plus important. Ça avait plus d'importance. Puis effectivement, puis chez nous, l'humour a toujours été très présent. Mon père est quelqu'un de très drôle, ma mère aussi. On aime ça rire, tu sais.
Direct en partant dans ta jeunesse.
Oui, mais on aime ça rire. Ah, il riait pas. Il faisait pas des roasts.
Genre,
des roasting.
Il te laisse même pas la chance d'accepter ta maladie. Ton père comme, « Ouais, les tâches! »
Bang, bang, bang. Mais non, mais l'humour...
Fucking inculte.
Désagréable.
Mais je l'aime beaucoup quand même.
Non, plutôt de façon générale, on aimait consommer, on allait voir des shows, on écoutait des shows, ouais. On riait. T'sais, l'humour, chez nous, on rit beaucoup, on aime ça rire. Fait que déjà ça, l'humour, c'était déjà ça. Mm-hmm. Puis après ça, le côté, comme je dis, j'ai toujours eu, j'ai pas comme eu un cancer où t'as été, dans 2-3 ans, là, c'est ouais, super intense. Puis à un moment donné, tu t'en sors, ou en tout cas, ça va mieux. Moi, ça a toujours été un peu de la merde, ouais. Tu comprends? Puis j'ai toujours eu des limites. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai compris rapidement que l'humour, c'est pas facile. On sait souvent dire non. On reçoit beaucoup de refus. Puis c'est quand même assez dur.
Il y a des shows aussi, man. Il y a quasiment 8 sur 10 ouais. Des shows. C'est pas super.
C'est dur. Ben oui, c'est dur. Puis tu essaies de nouveaux jobs.
Tu l'apprends à la dure, justement.
Absolument. Puis tu sais, c'est pas vrai que plus quand tu commences à en faire un peu plus, puis que t'es meilleur ou que t'es un vétéran, ben l'attente monte en même temps.
Fait, la pression est plus
oui.
Forte.
Tu sais, quand personne te connaît, tu rentres sur un stage, tu rentres moyen, c'est pas grave, on va oublier. Mais si ouais. Moi, je rentre, tu sais, moi, je ne sais pas comme je suis, mais moi, au niveau que je suis rendu, le monde me connaît ouais. Un peu plus. Fait que quand je rentre sur une scène, souvent, dans les bars, du moins, dans ouais. Le milieu, là, dans le
où
circuit.
Ou si tu animes au bordel, ben, ouais. on te paye pour que justement exact. Tu rendes l'appareil. Aussi,
ou quand je joue au bordel, on me paye pour que ça soit efficace à ce niveau-là. Mm-hmm,
c'est ça.
Fait que, mais ça, il faut gérer ça. Mais ma résilience, qui est due un peu à ma maladie, d'accepter que j'ai des limites, puis que des fois, c'est plus long, puis que des fois, la vie me fait des gens bêtes. Quand je suis rentré en humour, j'ai compris que le métier allait être difficile, puis j'ai compris ça rapidement. Je me suis rendu compte que pour moi, me mettre à terre, me mettre à genoux, là, puis me faire arrêter, là,
ouais.
Ça allait en prendre en tabarnak.
Ouais, ça
a pris 4 fois qu'ils me prennent dans l'école, moi, ouais. De l'humour.
Mais c'est ça, man. Ça, je voulais te savoir. C'est 4 fois?
4 fois. J'ai été pris la 4e.
Chris, t'étais un acharné, pareil? Ouais.
Mais les deux premières fois, j'étais encore au Saguenay. Je jouais encore au Saguenay à ce moment-là, les deux premières auditions. La première, honnêtement, tu sais.
Ils ont bien fait.
Oui, non. Même la deuxième. Deuxième, j'étais déjà un peu plus prêt, mais tu sais, j'étais pas prêt. Ouais. J'étais trop jeune. Troisième, j'ai fait ça en duo, parce que moi, la première année d'humour, j'ai fait à Montréal, c'est avec un de mes chums qui s'appelle Pascal Grandisson, qui est retourné au Saguenay depuis. Puis on a fait du duo pendant peut-être un an ou deux. Puis on avait fait de l'audition en duo. Puis on n'avait pas été pris non plus. Puis là, j'avais pris ça un peu plus mal parce que je les ai fait comme moi. Là, ça va faire 3 fois. Ouais. Là, s'ils me refusent encore l'année prochaine, je veux pas que ce soit la. T'sais, je veux pas en vouloir à personne d'autre qu'à moi.
Mm-hmm.
Même si c'était pas de sa faute à lui. T'sais, c'était un ouais. Sentiment bizarre quand tu fais une audition en duo. Fait que là, la 4e année, j'ai comme fait bon, là, écoute.
Mais ma tante, une audition en duo, là, c'est parce qu'on en parle. Hein. Mm. Ça se peut-tu, genre, ils te prennent toi et puis pas là?
Ouais. Ouais.
Ou mais, pas une autre, pas toi.
En fait, tu fais un numéro en duo, puis ouais. Tu fais un petit solo chaque.
Ah, OK.
Fait qu'il faut faire comme 3 numéros. Donc, chacun solo puis un duo. Okay. Puis oui, ça peut arriver qu'ils prennent un, pas l'autre. C'est plutôt rare. D'habitude, ils disent, ça se peut qu'on prenne juste un des deux.
Ouais.
Mais tu sais, dans ce cas-là, on était moyen des deux. Puis tu sais, on faisait de l'humour ensemble. On aimait plus dire qu'on faisait de l'humour qu'on en faisait.
Ouais, ben le ouais. Début, c'est souvent ça.
Là, on avait des idées. Puis on avait starté une soirée qui a duré une soirée. Ça a été un flop monumental. Puis on avait bien de l'ambition. Puis on était bien. On venait de déménager, là. On avait 21 ans. Premier appartement, t'es à Montréal, c'est sûr que t'es pas là le plus performant de ta vie. Là.
Ah ouais. Puis Chris, au début, tout le monde apprend.
Mais voilà, exactement. Fait que finalement. La 4e audition, je fais mon audition. Puis là, j'avais joué beaucoup cette année. Ben, beaucoup. J'avais quand même joué pas mal dans les bars cette année-là pour roder ce numéro-là. Là, mm-hmm. J'avais commencé à connaître un peu Junior au Saint-Cyboire.
Ouais.
Dans le temps, il y avait le Gémeaux avec Martin Turgeon. Bon, je jouais quand même relativement régulièrement. Puis les profs, parce que comment ça marche, on fait un numéro devant des profs de l'école ou la directrice, en tout cas, du
ouais,
monde de l'école.
Ouais, en édition,
après
ouais.
Ça, il y a une petite entrevue. Puis après ça, s'ils te prennent pour la 2e audition, tu viens pendant une journée faire des cours, des ateliers d'impro et d'écriture.
Ouais, c'est un stage, genre.
Ouais, c'est un genre de stage d'une journée. Tu sais, tu fais de l'écriture puis de l'impro, grosso modo, c'est surtout ça.
C'est quand même assez intense.
Oui, c'est intense. Ouais. C'est une journée très intense. C'est très condensé. Ouais. Mais moi, je savais cette journée-là qu'est-ce qui se passait. Je savais qu'il y avait beaucoup d'impro. À ce moment-là, je faisais encore beaucoup, ouais. Beaucoup d'impro.
Puis toi, c'est ça, t'étais bon.
Oui, j'étais bon puis j'étais prêt. Là. Ouais. Moi, j'avais pas été prêt encore pour la 2e audition. Ouais. C'était la première fois, la fois qu'ils m'ont pris. C'est la fois qu'ils m'ont pris en deuxième audition.
Puis c'est une grosse corde, la, ouais, la quand 2010.
Même. Hein? Ben, PB Rivard, qui était là il y a pas longtemps, justement. Adib, Charles Beauchamp, Jérémy Larouche,
ouais.
Francis Papineau, James Manella.
Oui, c'est ça.
Il y en a beaucoup qui en font encore, tu sais, qui en font plus du tout. Il y a, tu sais, Émilie Poisson. Mais elle a travaillé beaucoup avec les jeunes aussi, fait qu'elle sait de ce qu'elle a appris à l'école d'une autre façon, mais elle fait plus de stand-up proprement dit. Okay. Puis il y avait Dominique Roxicchini qui lui était plus un acteur comique qu'un stand-up. T'sais, lui, il n'avait pas tellement ça écrire des numéros en tant que tel, mais il y avait un casting de feu. Fait que je suis persuadé comme on va finir par le revoir
à télé
ou au théâtre ou même au cirque. Il ferait un clown de cirque incroyable. Il y a un casting comique assez unique.
Okay.
Mais oui, c'était quand même une grosse cohorte. Puis Pierre-Luc Pomerleau, j'ai oublié de nommer, qui est aussi première partie de Bellefeuille.
Puis il a fait un gala, l'hydrate en sortant.
Exactement, ouais. Avec un numéro où il était déguisé en coccinelle. Puis tu vois, ça l'a un peu ralenti.
C'est ça qu'il me dit, man. Ouais. Dit, ça, c'est la. Ben, pas la pire affaire qu'il a faite, mais à cause, ça l'a empêché de faire en route vers mon premier gala, où est-ce que dans ce temps-là, tout le monde écoutait ça.
Exact.
Puis c'était vraiment fort, fait que la visibilité, tu faisais bien remarquer. Hein.
Absolument, puis j'ai vécu un peu ce genre de choses-là. Moi, j'ai fait en route en 2011, mais j'ai juste fait les quarts de finale. J'avais été mis au vote du public contre Yannick Demartineau, qui avait un plus gros fanbase que moi à ce moment-là, qui avait été sélectionné à la place de moi, ce qui est tout à fait normal, puis aucune amertume à ce niveau-là. Mais l'année d'après, il y avait eu une pause dans la route en 2012, puis moi, j'avais fait un gala cette année-là. Puis l'année d'après, j'en ai pas fait de gala, puis l'année d'après non plus. Fait que 2013-14, j'ai pas fait de gala. 2012, le gala que j'ai fait n'a pas été télévisé.
Fait que, c'est celle avec Mike Ward, c'est ça?
Ouais, ça avait super bien été, j'étais super content tout, mais ça n'avait pas été télévisé. L'exposure avait été des gens dans la salle, point. Mm-hmm. Puis l'année d'après, en route, écoute, là, les codes d'écoute montaient. Fait que là, j'aurais pu faire plus de visibilité. Mais je regrette pas parce que c'était un gala, puis ça avait bien été, puis c'est extraordinaire.
Puis tu peux mettre ça dans ton CV aussi.
Oui, puis en fait, tu sais, je l'ai encapté et tout ça, mais niveau exposure.
Il est sur YouTube.
Il est encore sur YouTube parce que c'était mon ancienne agence qui l'avait mis sur YouTube. Je ne sais pas si je l'ai remis, mais en fait.
Okay.
Mais c'est un vieux numéro de 2012, ça, c'est pas grave s'il n'est plus là. Mais ça avait été une belle expérience, mais je comprends. Pierre-Luc Pomerleau. Fait que ça a été pour revenir au. Ça a pris 4 fois avant qu'ils me disent oui, puis la 4e fois, ils m'ont dit ben là, tu commences à faire des bars un peu. Penses-tu que tu as vraiment besoin de venir à l'école? Puis je dis ben si j'ai pas réussi à vous le prouver là. Ben, refusez-moi, je vais revenir l'année prochaine. Ouais. Puis, en fait, il veut, tu sais. Puis la persévérance pour eux autres, au-delà du rire et de l'efficacité comique, c'est quand même quelque chose d'assez important.
Ouais.
Fait que cette année-là, ils m'ont pris. Puis écoute, ça a été. Je travaillais dans un pawn shop à ce moment-là. J'ai travaillé 2 ans dans un pawn shop en attendant d'être prêt à l'école. Puis le jour que j'ai eu ma lettre d'acceptation, qui avait été retournée parce qu'il n'y avait pas le numéro d'appartement, sa lettre. Fait que là, j'attendais ma lettre, justement, j'appelle. Je finis par savoir que je suis prêt à l'école, tu sais. Puis je suis content. Puis le lendemain, je travaillais, je suis rentré, je dis à mon boss.
Peace
le
out.
31 ben, okay. Je vais toffer l'été parce que j'ai besoin de sous un peu. Le 31 juillet, je suis dehors parce que le premier du mois d'un pawn shop, c'est l'enfer. Les premiers du mois, c'est l'asile. Tout le monde travaille, puis c'est 12 heures, puis c'est affreux. Puis j'avais dit le 31 juillet, I'm out. Puis il dit, tu peux pas travailler comme le. Tu sais, tu peux pas partir comme le 2 ou le.
Ouais.
Non, c'est exactement pour ça que je pars le 31.
Ouais.
C'est pour pas avoir à faire le premier.
Ouais.
Fait que le 31 juillet, à partir de là, c'était fini.
Moi, j'ai cette gag-là que je dis souvent entre amis, mais ça aurait été drôle. Genre, après tout ton acharnement avec l'école, tout ça, t'appelles, puis les fois comme, ouais, t'es pris à l'école. Fait comme, non, j'ai d'autres. Projet, je travaille dans une bonne shop. Tu raccroches.
Fucker, man.
Tu sais, moi, ben, tu sais, c'est pas bonne shop, mais moi, je disais, ouais, j'ai d'autres projets, je travaille dans une pataterie.
Je suis devenu gérant de plancher, fucker.
Non, même pas.
Même pas.
Même pas. Il fait des patates, mais il est comme, that's what it is, baby, time to shine.
Shine bright like a diamond. Mais ça répète ça. J'étais mon rêve de voir ça à la voix, genre. Tu sais, un qui torche, tu sais, les 4 juges survivent.
Ah, oui.
Personne drop le mic, il s'en va. Il choisit personne, il fait juste avoir des skills. Il s'en va, c'est magique.
I hate need you, bitches. They call it.
Ben, il drop le mic, puis il punch Charles Lafortune, puis il s'en va. Il est juste désagréable. Un genre d'instable comme toi, là. Il dogue Lafortune.
Punch Charles Lafortune. Moi, je suis pour un avance, c'est puncher Charles.
Bam! Il fait juste le geler quand il arrive dans le bain. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il gratuitement.
Là, t'as genre un label de gangster rap qui le signe pour des millions. C'est sûr. Il se passerait quelque chose. Quelqu'un ferait ça, là. C'est sûr qu'il y a une, un label un peu rebelle.
Il se fait prendre sous l'aile à 50 Cent.
Ouais, genre, c'est ça. Ouais. Le Wayne, ou tu sais.
Dr. Dre, un gangster. Aftermath, c'est sûr qu'il pogne.
C'est sûr. Même s'il chante genre du blues. On sent Chris, le gars, il est badass. Il a knocké Charles Lafortune d'après avoir chanté My Heart Will Go On. Il chante dans Total Eclipse of the Heart, il gèle genre la fortune, puis il drop le mic, puis il s'en va. Meilleure audition ever.
C'est drôle, là. Ah, oh, fuck, man. Puis, t'as-tu aimé l'école? T'as-tu...
Oui, mais...
T'as-tu... C'est dur à revenir.
C'est dur à revenir.
Après avoir punché Charles Lafortune.
C'est vrai que c'est un punch-out assez puissant. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Honnêtement, pour revenir... ouais. J'ai beaucoup aimé la rigueur que ça m'a apporté, parce qu'à l'école, tu sais, il y a des cours que j'ai moins considérés comme utiles que d'autres, puis c'est correct, là, comme à l'école en général. Mais la rigueur que ça m'a obligé à avoir, de travailler, d'écrire des jokes, de réfléchir, de retourner chez nous le soir, puis de repartir, tu sais, t'as des devoirs, puis t'as des choses à faire. Puis si t'es fait pas, ils peuvent te mettre dehors, tu sais.
Puis t'avais-tu besoin, toi, de cet encadrement-là?
Ben, ça m'a peut-être juste... j'aurais peut-être trouvé une autre façon. Mais tu sais, moi, dans la vie, ce que j'aime d'avoir des contours d'écriture, c'est que j'ai des deadlines puis j'ai des obligations. Quand j'écris juste pour moi puis que c'est un peu genre, je veux écrire du stock, je peux, tu sais, je procrastine facilement. Okay. Si j'ai pas des. Pour ça, j'aime ça me booker des choses, j'aime ça avoir des affaires de céduler parce que je sais que, oh là, je chronique, mettons, à Belleuil, je fais une soirée à Belleuil où je chronique une fois par mois. Fait que je sais qu'une fois par mois, au moins, il faut que j'aille pondu quelque chose, j'ai des dates, c'est dans mon agenda, je le sais, fait que je m'aiguille avec ça. Puis l'école.
Tu trouves un rythme aussi, une routine.
Oui, absolument. Puis l'école m'a montré ça. Ils m'ont montré que j'ai appris à l'école la chose, une des choses les plus importantes, c'est qu'il y a 20% de talent, il y a 80% de travail. Si tu peux être le plus talentueux, si tu te pognes le cul, tu vas te faire passer dessus par lui qui est moins bon mais qui travaille.
C'est ça.
Puis mettons Louis-José, pas parce qu'il était moins bon, mais Louis-José, de son propre aveu, de sa cohorte, n'était pas considéré comme le meilleur de sa cohorte, proprement dit, au niveau efficacité. Il était bon, mais c'était pas lui comme le monde
qui ressortait le plus.
Ouais, c'était pas celui que les autres humoristes de cette cohorte-là disaient, c'est lui qui va shiner. C'est lui le prochain, tu sais.
Ouais.
C'était pas Louis-José, puis c'était pas non plus, il est vraiment à chier, là. C'était pas, juste pas lui le. Ouais. L'élu, mettons. Puis lui qui était considéré comme l'élu, je pense que je le connais même pas, c'en a un qui fait même plus ça, tu sais.
Ouais.
Qui était comme talentueux, mais qui travaillait pas. Alors que Louis-José, puis il y a plein d'autres exemples qu'on a nommés, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais il a animé des soirées pendant des années, rodé du stock, il faisait des 3-4 shows par semaine, il faisait quasiment dans son char, travaillait comme un fou, puis tu vois, aujourd'hui, travail-là était beaucoup plus payant que juste le talent brut qu'il avait. Et là, on est d'accord. Là. Mais le travail, bien avant le talent. Là.
Mm-hmm.
C'est sûr que si t'as zéro l'esprit comique, t'as zéro le filtre, puis t'as zéro le delivery, puis il y a des affaires qui s'apprend pas. Dans la vie, il y a une parcelle de drôle qu'il faut que t'ailles. Tu peux pas être à ce point travaillant que tu vas devenir drôle. Ça veut pas dire. Mais si t'es prêt à comprendre, si d'emblée tu le sens, tu le sais, que t'as un instinct comique, ben dis-toi que ce bout-là, c'est le 20%, même 15% de ton travail. Après ça, il y a 85% de choses qu'il faut que tu apprennes et qu'il faut que tu travailles.
Moi, je dis tout le temps à ceux qui commencent, qui débutent, là, je suis comme, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi-même.
Oui, absolument.
C'est ça. Si tu te mets des bâtons dans les roues,
puis l'inverse est aussi vrai. La seule personne qui va vraiment t'aider au bout de la ligne, c'est toi.
T'sais. Exact.
T'as fait des alliés, puis moi, on parlait tantôt de donner des gags aux gens, puis tu fais des alliés, ça, des amis. C'est super important, c'est même indispensable, surtout quand tu veux aussi être un peu. Quand tu veux être auteur ou quand tu veux être en partie auteur, du moins.
Ouais.
Mais au bout de la ligne, c'est toi. C'est toi. T'sais, moi. Si j'ai décidé de prendre ma vie en main, d'arrêter de fumer du pot, puis d'arrêter de faire ci, faire ça, c'était pour être meilleur.
Ouais.
J'étais bon, puis j'étais capable de travailler même en faisant ça. En arrêtant, je suis devenu meilleur. Après ça, maintenant, je suis...
Tu peux plus focusser.
Ouais, exact. Puis là, maintenant, tu sais, j'ai un agenda bien rempli, j'ai un enfant, mais cet enfant-là m'apporte une rigueur aussi. Je me lève tôt le matin, je sais qu'il faut que je condense mes affaires dans la journée, parce que tard le soir, moins.
C'est ça.
Avant, je disais, j'écrirais à 1h du matin, si un peu batté devant la TV. Dans le sens que j'étais capable, là, quand j'étais un célibataire qui vient d'appartement, c'était autre chose. Maintenant, il faut s'ajuster avec notre vie. Puis moi, j'aime écrire, Puis j'aime faire de la scène parce que c'est pas la même partie de mon cerveau qui fonctionne quand j'écris pour Piment, quand j'écris pour moi, que quand j'écris pour...
Ouais, okay.
Fait que je suis capable... Moi j'aime ça avoir beaucoup d'affaires à faire en même temps parce que j'haïs bien ça, travailler juste sur un projet longtemps. Fait que moi, c'est bien rare, je vais m'asseoir, mettons, 6 heures pendant une journée puis je vais écrire un numéro pour moi. Je vais écrire une heure de Piment. Je vais écrire une heure de m'en relire un texte de Marianne qui m'a envoyé. M'en regarder un tape de moi d'une heure que je voulais me rappeler. Après ça, une pause, je vais aller jouer au play une heure. Après ça, je vais retourner travailler sur mes textes.
T'alternes.
Oui, il faut que j'alterne les styles parce que si je fais... Tu sais, des fois, je suis obligé, mettons, de travailler sur Piment Fort pendant plusieurs heures puis je trouve ça vraiment plus lourd que si j'ai le temps de dire « Ah, bon, je vais travailler 2 heures de Piment aujourd'hui. » Je travaille 2 heures sur mon stock, puis j'ai un show à soir.
Ouais.
Fait que là, j'ai compartimenté ma journée, mais faut que je me... Comme là, tu sais, on a un podcast. Avant de venir au podcast, je suis allé dans un café, finir un document pour Piment Fort. Après ça, j'ai un meeting, je retourne chez nous, faire souper pendant la routine, j'ai un show à soir, j'anime au bordel.
Ouais.
Tu vois, j'ai compartimenté ma journée en choses à faire qui sont différentes.
Okay.
Fait comme ça, ma journée passe vite, j'ai du fun, puis je suis moins fatigué que si j'ai fait juste une affaire.
Ouais, puis t'es content de ton travail aussi.
Exact.
Tu sais que t'as travaillé.
Ouais, je sais que j'ai travaillé, puis je sais que j'aurais été bon égal dans tout, parce que c'est toutes des affaires différentes.
Okay.
Si j'ai travaillé juste 8 heures sur Piment, ou 6 heures, les 2-3 dernières heures vont être moins bonnes que les 2-3 premières. Alors que si j'ai travaillé 3 heures sur Piment puis 3 heures sur mon stock à moi, les 3 heures vont être aussi efficaces dans les deux bords, de façon générale. C'est sûr que si physiquement je suis fatigué, ça c'est autre chose, mais dans ma tête fonctionne. Il y a des compartiments qui s'ouvrent et qui se ferment. Fait que, quand je travaille sur Piment, c'est un morceau qui fonctionne, puis quand je travaille sur mes affaires, c'est un autre morceau. Fait que je sais que je vais être efficace dans les deux si je le compartimente bien.
Hey, ben man, Krim, c'est tout le temps qu'on avait. Mais Krim, ça a été fucking nice, mon gars. Merci beaucoup d'être venu.
Ça a été un plaisir, Simon Delisle. Ben oui.
Krim, j'irai le voir en show. Il était écœurant, ce gars-là.
C'est fin.
Puis.
Allez sur mon Facebook si vous voulez les dates.
Ouais,
Simon Delisle.
Ouais, c'est ça.
Il y a Sim Delisle aussi, c'est pas ce compte-là. Simon Delisle, humoriste.
Okay.
Sur Facebook. Puis j'essaie de mettre des dates, des vidéos, des ci, des ça.
Ouais,
là-dessus.
De le pour garder actif.
Ouais, j'essaie. Puis j'ai pas de site web, proprement dit, de cette temps-ci. On travaille là-dessus. Mais j'essaie de mettre mes infos de show à venir le plus souvent possible.
Ou sinon, être animateur au bordel.
C'est
puis,
souvent.
Une vraie ça. Machine.
Quand même, on travaille fort.
Il punch Charles Lafortune.
Pour prendre ça au premier degré, c'est une supposition qui serait drôle si.
C'était juste des blagues. Hey, merci encore beaucoup.
Merci, Jer.
Très apprécié.
Ça fait
plaisir. Puis tu reviens quand tu veux, mon gars.
Je vais revenir, c'est le fun.
Yes, sir.
All right.
Ciao.
Ciao.